Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Canada. 7e Grand Prix de la saison et 7e vainqueur. La série continue pour m'accompagner. Bonsoir Dino.
Bonsoir Cindy.
Alors Dino.
Mais nous ne sommes pas seuls.
Revivez maintenant. T'es qu'un flemmard, vous rendez compte? Il veut même pas faire ça, il veut même pas faire la petite présentation. Ah, c'est pitoyable.
J'en suis pour les proverbes, Cindy, chacun sa tâche.
Eh bien ce soir Dino, c'est Bilo qui nous accompagne. Bonsoir Bilo.
Ah bah Bilo n'est pas là. Hein. Allô Bilo? Il s'est déconnecté ou pas?
J'ai pas, ça a coupé. Tiens, Fab.
C'est moi qui l'appelle.
Qu'est-ce que tu fais là?
Non, je fais juste un coucou. Tu devrais bosser, feignasse. T'as des révisions à faire, faut que tu bosses.
Autant nous aussi, on devrait être en train de bosser, je te rappelle.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, vous devrez être en train de bosser là.
Oui, mais on attend Bilo.
Vous allez bien?
Ça va, mon petit Fab?
Ça va?
Bah oui, je suis venu juste te rappeler que. Hein, t'oublies pas le premier cette fois-ci.
Arrêtez là. Oui.
Bah, je dis rien. Hein. Vous faites ce que vous voulez, vous gérez l'émission, hein. C'est vous, hein, vous faites.
Monsieur l'accusateur, oh, Rico Davis, oh, arrête.
Tu le sais, toi-même tu sais. Sois un peu honnête.
Il est à un niveau tout à fait normal cette semaine.
Oui, Shinji, sois honnête.
Shinji, allez.
Admets-le. Il est à un niveau normal, j'ai pas dit que c'était brillant, il est à un niveau normal. Mais
normal. Bon, normal, ça veut dire quoi maintenant?
C'est quoi la normalitude?
Vous avez commencé là ou?
Shinji venait juste de faire son intro, on venait de présenter Bilo et on a eu un gros blanc.
Ah bah, c'est bien.
Bon, ça remarche. Ah.
Bon bah Fab, on va te dire adieu.
Au revoir.
C'était un plaisir de te faire chier là pendant tes révisions.
Merci. C'est gentil. Je vais aller voir Russie-Pologne maintenant.
Ah là là. Oh dommage. Oh, on rate ce match là. Oui. Oh non.
Ah mais Bilo.
Salut.
Ah ouais, salut. Ouais. Salut.
C'est fun ça, salut.
Bon allez messieurs, bonne soirée.
Allez salut. Salut. Donc bonsoir Bilo.
Bonsoir à tous. Bonjour.
Alors, messieurs, comme d'habitude, comment avez-vous trouvé ce Grand Prix?
J'en ai trop peu de souvenirs, j'ai dit, c'est horrible.
Fallait pas rater la fin.
Excellent.
Oui, non mais sincèrement, avec le live, j'ai vécu un Grand Prix très parcellaire où j'ai eu quelques informations. Je voulais le revoir et j'ai pas pu le revoir.
C'est vrai que c'était très intéressant sur la fin. Faut avouer qu'il y a quand même certains moments où c'était pas une course chiante, mais voilà, pas spécialement non plus extraordinaire en fait.
Ça a failli au début quand même. Au début ça a failli d'être un petit peu chiant. Puis après il y a Massa qui s'est dit allez, je me dévoue les mecs.
Oui, c'est vrai.
Au lieu d'être 5 à se battre pour les bonnes places, ils ont été plus que 4 du coup.
Tu te rends compte maintenant, on dit que Massa il pouvait se battre pour un top 5, c'est incroyable.
Mais oui, mais c'est vrai en plus. C'est vrai.
Non mais au début j'ai eu peur parce que depuis vendredi on nous annonçait des pneus qui duraient 30 tours, je me suis dit mince, si ça fait un arrêt comme à Monaco, on va vite s'embêter, surtout au Canada. Et quand j'ai vu Vettel s'arrêter au bout de 15 tours, je me suis dit c'est bon, normalement on va avoir une bonne course.
Alors messieurs, ce dimanche nous étions quelle date ce dimanche d'ailleurs?
Le 10.
Nous étions en effet le 10 juin.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Alors messieurs, je vous rappelle la règle de l'éphéméride inutile, un chiffre qui se rapporte à un événement qui a eu lieu donc le 10 juin. Et le chiffre de la semaine, messieurs, écoutez bien, c'est le chiffre 7414.
C'est un nombre de personnes.
Non.
C'est un rapport avec le Canada?
Non.
Est-ce qu'il y a une unité derrière?
Il y a une unité.
Unité de poids?
Non.
Unité de durée?
Non.
De longueur?
Oui.
Donc c'est 7400 mètres?
Non.
Kilomètres?
Non.
Centimètres?
Non.
Millimètres?
Non.
Décimètres?
Non.
Hectomètres?
Non.
Micromètres?
Non.
C'est plus petit.
C'est dans les grandes longueurs?
C'est...
Année-lumière?
Non, c'est plus petit que ça.
Moins lumière?
Ça... Non. Si vous partez sur cette échelle, en tout cas, ça fait partie des petites distances.
Ah, c'est une petite distance?
Ah, par rapport à l'année-lumière, oui.
Ah, d'accord.
Oui, d'accord.
Mais par rapport au kilomètre?
C'est plus petit.
Plus petit que le kilomètre?
Plus petit que le kilomètre.
Merde.
Tu dis que le mètre.
C'est des yards.
Que le kilomètre. C'est des yards.
Ah, mais ça fait combien en mètres? Je sais pas. Moi.
Alors, en mètres, ça fait 6779. Et je peux même vous dire que, converti en miles, c'est, ça fait 4 miles et 374 yards. Parce qu'ils n'utilisent pas le système métrique.
Ouais.
Et vous savez que yard, en français, ça peut se traduire par verge.
Oui. Au Canada, ils mesurent en verge.
Voilà.
Ça a un rapport avec un sport canadien?
Non.
Mais ça part.
Non, ça part pas rapport avec le Canada, donc j'ai rien.
Bah oui.
Mais oui, ça a un rapport avec un sport.
C'est une distance de terrain. Un terrain de foot, par exemple, ou un terrain de...
C'est pas la distance d'un terrain.
C'est le périmètre.
Non.
La distance d'une course?
Oui.
De chevaux.
Non.
Ni de chevaux, ni à pied.
Non.
Cyclisme?
Non.
Course de char?
Non.
Le tournage de baigneur?
De natation?
Un triathlon, non?
Non.
C'est une course, est-ce que c'est une course pour les humains?
Oui.
Attends.
Est-ce que ce nombre, c'est le total qu'il fallait parcourir pour atteindre un but, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a parcouru mais sans le vouloir?
Oui, c'est la distance à parcourir pour atteindre le but.
Et c'est quoi le but?
Ah, c'est justement ce qu'il faut deviner.
L'arrivée.
C'est arrivé.
Donc c'est pas un tour par exemple, c'est pas la distance d'un tour, c'est la distance complète de la course.
Voilà.
Et c'est une course insolite?
Non.
Genre le rouler le Munster ou un truc.
Non.
Il y a toujours ces courses,
ouais,
à la con.
Oh.
Ça a un rapport avec les JO?
Oui, on peut dire que ça a un rapport avec les JO. Mais ça ne fait pas partie des JO, je précise quand même. C'est pas une...
C'est lié à la flamme olympique?
Non.
Ça aurait pu, tiens, en plus.
C'est une course homme ou une course femme ou une course mixte?
Alors, on va dire que c'est une course homme, mais il y a déjà eu des femmes.
C'est une course automobile, non?
Non.
Donc, qu'on soit bien d'accord. Par course, tu entends, on part d'un point, 6 km après, on arrive.
Exactement.
D'accord.
Est-ce qu'on peut arriver 6 km après en ayant fait plusieurs fois le même chemin?
Non, c'est linéaire. C'est...
D'accord.
C'est un point, il y a un point de départ, un point d'arrivée et un tracé.
Et c'est tout le temps le même parcours ou c'est
tout le
ça peut changer
même...
mais il faut que ça fait la...
C'est tout le temps le même D'accord. parcours.
Cette course se déroule combien de fois par an?
Une fois par an.
Est-ce que ça opposerait pas deux universités?
Oui.
Alors c'est la course entre Oxford et Cambridge, je crois.
Exactement.
La course de kayak là.
Donc en effet, alors faut savoir qu'en anglais ils appellent ça the boat race. C'est pour ça que quand t'as parlé de natation, j'ai fait des noms un peu de mou parce que c'est pas très loin. Enfin,
parce que des fois ça se finit comme ça.
Ça peut se finir comme ça. C'est la fameuse course donc qui oppose donc les deux universités de Cambridge et d'Oxford. Et la première course, elle remonte au 10 juin 1829.
Oh,
voilà. Alors, il faut savoir, c'est un très grand événement, sportif même mondial, bon, même si on le perçoit peut-être pas trop du côté français. Il faut savoir qu'on estime qu'il y a environ 250 000 personnes le long de la Tamise, hein, le jour de la course. Et pour donner quelques chiffres télévisuels, en 2004, ça a été retransmis et suivi par un peu plus de 500 millions de téléspectateurs. Ouais. Et donc, alors, la première course date de 1829, elle se court tous les ans depuis 1856, sauf pendant les deux guerres mondiales. Donc, la course, donc elle fait donc 6779 mètres, hein, donc 4 miles et 374 yards, de Putney jusqu'à Mortlake, donc c'est sur la Tamise. Pour situer, c'est à l'ouest de Londres. Il passe juste à côté du quartier de Fulham. Pour les amateurs de foot, il passe vraiment au bord de Fulham. Alors, faut imaginer, donc c'est linéaire parce que c'est un fleuve, mais c'est pas une ligne droite, puisque en fait, c'est dans un bras. Donc pour vous indiquer, en fait, quand ils partent, il y a d'abord un virage à la droite. Puis il y a la boucle, vraiment la boucle de la Tamise, donc sur la gauche, avant de finir sur la droite. Et donc, alors ils alternent pas hein, au niveau du côté. C'est il y a un toss qui est fait tous les ans et celui qui gagne, bah il choisit apparemment en fonction des conditions climatiques et des conditions de la Tamise. Donc ils remontent le fleuve, donc c'est-à-dire qu'ils vont quand même en sens contraire du fleuve, même si ils synchronisent la course avec la marée montante,
ouais.
Hein, quand même. Donc, la tradition, elle a débuté avec Charles Merivell, un étudiant de Cambridge, et son ami Charles Wadsworth, qui se trouvait donc à Oxford.
Wonderful, she did. Wonderful. You speak English like my grandmother.
Donc, Cambridge a défié Oxford au cours d'une course, et donc le défi s'est renouvelé tous les ans, hein, donc depuis très longtemps. Alors, officiellement, la course se déroule entre rameurs amateurs, puisque la condition, c'est d'être étudiant dans les universités respectives. Malgré tout, c'est amateur entre guillemets, enfin, puisque faut imaginer que bien évidemment il y a un paquet de d'aviron, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui fait de l'aviron.
Un barreur,
exactement. Donc il y a des barreurs de niveau olympique qui ont fait cette course et qui ensuite ont récolté des médailles aux Jeux. D'ailleurs, apparemment au niveau de l'Angleterre, parfois ça, il y a des petites controverses parce que on se doute bien que parfois, ils doivent accepter des rameurs plus pour leurs conditions physiques que pour leur qualité estudiantine.
Oui. Hein. Alors, un peu comme aux États-Unis avec le football américain. Voilà. Où on sait très bien que.
Alors que bon, le principe quand même. Sur Wikipédia, ils expliquent quand même que par exemple en 2005, l'équipe de Cambridge, il y avait quand même 4 étudiants au doctorat, un étudiant de médecine et un étudiant en médecine vétérinaire. C'est quand même des têtes, hein. Ouais. Donc c'est une institution nationale britannique. Faut savoir que depuis 2005, c'est diffusé sur ITV, puisque là encore, c'est un truc que la BBC a cédé les droits. Ça faisait quand même 66 ans qu'ils diffusaient la course. Donc c'est une course de 8 avec barreur. Donc ça veut dire qu'ils sont 8 en ligne avec une rame,
plus un mec devant,
voilà, avec une personne devant, exactement. Alors, faut savoir que la préparation à la course, elle commence 6 mois avant avec de la préparation 6 jours par semaine. Donc, voilà, c'est théoriquement c'est amateur. Dans les faits, c'est plus vraiment de l'amateurisme. Ouais. Tu parlais justement, c'était une course masculine ou féminine. Alors, dans les faits, c'est une course masculine. On est bien d'accord. Mais il y a déjà eu des femmes, puisque la première femme à participer, ça a été en 1980 pour l'équipe d'Oxford, et elle était barreuse, justement.
Elles sont plus fines et plus légères, donc du coup, c'était peut-être un avantage.
Oui, puis t'imagines avec les autres mecs, vu comment ils sont baraqués, oui. Voilà. Il y a eu des personnes assez connues à l'avoir fait cette course. Alors, certes, certaines qui sont peut-être plus connues pour les Anglais, mais il y en a une que vous connaissez, c'est Hugh Laurie.
Ah oui?
Oui. Qui d'ailleurs aurait pu faire carrière une carrière sportive et qui ne l'a pas faite. Hein. Et oui, Dr House, il a participé à cette course. C'était en 1980 pour Cambridge et il l'a perdu malheureusement.
T'as raté ton diagnostic et la rage.
Alors il est arrivé 3 fois qu'un des 2 bateaux coule. Ah oui, hein, ça arrive. Hein. Il y a eu Oxford en 1925 et Cambridge en 1859 et 1978. Faut savoir qu'il y a même eu des Français. Alors c'est très récent, hein, puisque c'est en 2006. C'est la première fois qu'il y a eu un Français rameur. C'était Bastien Ripoll dans l'équipe d'Oxford. Et alors donc forcément, je vais vous poser la question. D'après vous, qui c'est qui mène? Et à peu près avec combien de victoires?
Moi, je pense que c'est très serré et je pense que c'est peut-être plutôt Oxford.
Il y a eu combien d'éditions en 70?
Ouais, 150, 160.
Je pense que c'est Cambridge 100 victoires à 50. Voilà.
Alors, vous avez à moitié raison, chacun, puisque c'est Cambridge qui mène, mais c'est plutôt serré puisque c'est 81 victoires à 76.
Ah ouais.
Et à noter, il y a eu un ex-aequo. Oui, c'est arrivé. Alors, ça s'est passé en 1877. Apparemment, ce que j'ai vu, c'est que la Tamise était très, très houleuse, apparemment. Un des 2 bateaux a eu un pet, en fait, sur l'embarcation. Et, comme justement, ils ont pas les mêmes outils de chronométrage qu'aujourd'hui, ils ont pas vraiment pu déterminer qui était le premier ou pas. Donc voilà, ils ont dit, c'est ex aequo.
Mais c'est pareil, quand un bateau coule, est-ce qu'ils refont la course ou est-ce que c'est la victoire ou...
C'est victoire à l'autre, hein.
Il avait qu'à être mieux construit, le bateau.
Ah oui.
Mais c'est assez Oui. Pardon, ça dure combien de temps,
Alors justement, j'allais parler de la durée. En moyenne, c'est entre 17 et 19 minutes.
Ah oui,
mais c'est très variable, hein, parce que si je prends les dernières années, alors ça doit aussi beaucoup, je pense, dépendre du temps, hein, forcément. Oxford gagne en 2008 en 20 minutes 51, et en 2009, il gagne aussi en 17-02. Ouais. En 98, Cambridge gagne même en 16-19. Donc on est quand même toujours plus ou moins voilà entre 17-19 minutes. Ça peut être plus rapide, ça peut être plus lent. Et à noter que cette année, donc c'est Cambridge qui a gagné. La course avait eu lieu le 7 avril et il n'y a pas eu de temps. C'est-à-dire qu'on considère que Cambridge a gagné, ils ont passé la ligne en premier. Il n'y a pas eu de temps parce que ils ont été interrompus. Il y a eu une sorte de striker marin Hein, bon, même s'il n'était pas tout nu, apparemment il avait une combinaison. Si... il y a eu un type au beau milieu de la Tamise et ils ont dû s'arrêter pour évacuer le type. Alors ils ont repris. La course s'est terminée, mais bon, ils ont pas mis de temps parce qu'apparemment ça a bloqué le truc genre pendant une demi-heure, donc c'était plus possible.
Il a voulu faire comme le mec qui avait couru sur la piste lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est toujours des Anglais hein, qui font les marioles pendant les courses.
C'est une grande tradition anglaise. Alors, il y a une phrase qui est restée célèbre, c'est le commentateur du journal sportif de la BBC, John Snagg, qui en 1949, bon, c'est très con hein, ce qu'il dit, mais c'est resté dans les mémoires. « Je ne peux pas voir qui est en tête, mais c'est soit Oxford, soit Cambridge. » Logique. Et depuis 2000, en fait, c'est relativement équilibré. Aucune équipe ne l'a gagné en 3 fois de suite, en fait.
D'accord.
Souvent, on a Oxford, en fait, qui gagne 2 fois de suite, puis c'est une année Cambridge, puis de nouveau Oxford. C'est assez équilibré, en fait. Donc, c'était tout pour la The Boat Race. À noter qu'il y a un lien avec le Havre Athletic Club, hein. C'est que, vous savez que le club de foot du Havre, ils sont ciel et marine. Bah, c'est en hommage justement à ces deux universités parce que ce sont des étudiants de ces deux universités qui ont importé le foot au Havre.
C'était un bon chiffre, j'ai dit.
Oui. Oui, très intéressant.
Et alors sinon, en F1, un 10 juin, eh bien il y a une date forcément qui ressortait, c'est une date assez récente mais qui finalement est une date importante dans l'histoire de la F1, c'est le 10 juin 2007. C'était déjà le Grand Prix du Canada. Alors cette date, on la connaît pour deux raisons. Alors, il y en a...
Hamilton et l'accident de Kubica.
Voilà, tout à fait. C'est quand même la première victoire d'Hamilton au bout de son 6e Grand Prix. Hein. C'était le début. Hein.
Et encore, c'est tard. Non, mais sincèrement, quand on connaît les débuts d'Hamilton...
Oui, ça aurait pu être plus tôt. Ça aurait pu être plus tôt.
Il a attendu.
C'était aussi sa première pole, hein, au passage. Ouais. Hein. C'était aussi, quand même, faut le dire, c'était le troisième et dernier podium pour Alexander Wurz. Qui était sur une Williams Toyota. Ah, oui, vous en foutez, mais quand même. Voilà, j'ai dit, tiens, parlons de Wurz au moins une fois. Ouais. Et donc, bien évidemment, peut-être encore plus, ce qui éclipse même la première victoire d'Hamilton, c'est bien évidemment, c'est le crash. C'est vrai que c'est quand même un type qui n'a pas eu de bol dans la vie. Enfin, ouais. Un carton monstrueux qu'on peut revoir d'ailleurs.
Il n'a pas eu de bol dans la vie. Enfin, si on regarde l'accident, on dit quand même.
Sur celui-là, ouais. Oui. D'ailleurs, on peut le revoir. C'est sur la chronique de Quentin qu'il a faite. Il y a pas que cet accident-là, mais il y a cet accident. Il y a la vidéo où vous pouvez le revoir et même encore aujourd'hui, c'est ouh.
Moi, c'est terrible parce que j'avais jamais vu cette course-là je l'ai revu il y a 2-3 mois. Je me suis dit tiens, ça la fout, je la regarde, et donc je l'ai regardé et j'avais beau savoir que ça allait arriver, j'avais beau à chaque fois je voyais Kubica, à chaque fois je voyais Toyota, j'avais beau me dire c'est peut-être là, et là je l'ai vu arriver l'accident. Mais quand même, j'ai eu peur.
Non, parce que...
Même si tu sais que le mec s'en est sorti, etc., derrière, t'as quand même peur, parce que la violence de l'accident...
C'est là le sens du mot pulvérisé prend tout son sens. Bon, les pilotes abîment parfois des voitures. Non, lui, il a pas abîmé sa BMW.
Oui.
Il est resté plus que la cellule de survie. Voilà.
Ça arrivait d'un coup, en plus. Si je me souviens bien, ils étaient en caméra embarquée sur un pilote et... On entendait d'abord Malbranche dire oh là là le tonneau et on n'avait pas encore l'image. Donc,
coup... Mais le pire c'est qu'on voit quasiment rien, c'est-à-dire qu'on voit l'accident.
On voit la fin quoi.
On voit le replay, mais derrière ensuite sur l'intervention t'as aucune caméra parce que c'est les règles maintenant de la FOM, t'as aucune caméra qui est braquée sur le coin, tu ne vois strictement aucune image, c'est-à-dire que les mecs sont en train de commenter des voitures qui circulent, en train de dire qu'il y a eu un accident, mais tu ne vois que dalle.
Donc voilà messieurs, c'était tout pour l'éphéméride.
Magnifique éphéméride inutile. Chine.
Merci.
Ouais. C'est vrai.
Dino, c'est l'heure de notre invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Bino, tu le sais, cette saison, nous avons décidé de vous donner la parole. Des fois, on le regrette, mais bon, on fait avec. Hein. Et donc, ce soir, c'est ton heure de gloire. Enfin, ta demi-heure, enfin ton quart d'heure de gloire. Tu sais par quoi ça commence, le quart d'heure de gloire?
Oui, le pour ou pas pour.
Donc, alors, Bilo, es-tu prêt?
Oui.
Alors, pour ou pas pour l'arrivée d'une femme en Formule 1 d'ici 10 ans?
Pas pour.
Pour ou pas pour la réintroduction des 500 miles d'Indianapolis au championnat du monde de Formule 1?
Ah, pour.
Pour ou pas pour la saison à plus de 20 courses?
Pour.
pour ou pas pour le départ en retraite de Felipe Massa s'il trouve pas mieux qu'une écurie de points pour piloter l'année prochaine?
Pas pour.
Pour ou pas pour le Grand Prix d'Amérique au New Jersey?
Bon, pour.
Pour ou pas pour le Hungaroring?
Ah, pour, évidemment.
Ah là, quelqu'un de goût. Enfin, je te dis, tu vois, on a que ça depuis le début de saison. Bon, après, tu me diras la question suivante, on va vraiment savoir s'il y a du goût. Pour ou pas pour le retour de la Super League Formula?
Pourquoi elle a disparu?
Si, si.
Oui, elle a disparu. Mais c'est juste à rassurer les gens. Elle ne va pas revenir. C'est juste que c'est l'Euro de foot. Donc, du coup, on s'est dit, voilà, on va faire une petite question comme ça pour mélanger les fins et foot.
Bon, pas pour.
C'est un peu le principe.
Pas pour, hein, je m'en fous. Pas pour.
Pour ou pas pour les petits trous dans les monoplaces?
Les petits trous?
Oui, les petits trous.
Ah,
ah, non. Ah, dans les Red Bull, surtout, oui.
Pas pour si c'est chez Red Bull, quoi.
Pour ou pas pour que Lewis Hamilton quitte McLaren en fin de saison?
Pour.
Et enfin, pour ou pas pour que Superman arrête de mettre son slip sur ses collants?
Pas pour.
Pas pour. Donc Superman, si tu nous écoutes, Superman, tu peux garder ton slip sur tes collants. Ouais, même si franchement, ça doit te casser quelques coups avec les gonzesses, tu peux.
Détruit pas un mythe, hein, comme ça.
Alors maintenant, tu peux revenir sur trois sujets de ton choix. Donc c'est assez équilibré.
Bah de toute façon sur les pour, il y en a trois, ça peut être la même chose, c'est pour ou pas pour un grand prix. Et moi de toute façon plus il y a de grands prix, plus je suis content, hein, même si c'est des grands prix de merde. Bon, New Jersey, bon, on va avoir un circuit en ville, donc ça risque d'être ennuyeux. Mais bon, de toute façon c'est un grand prix, hein. Donc c'est pour ça que plus de 20 grands prix, ça serait bien. Si je pouvais y en avoir 52, ça serait bien aussi.
Je crois que dans il y en a certains qui vont pas être d'accord.
Ah bon?
Adrien Newey va dire, je peux pas non plus chaque semaine retirer des trucs de voiture, en rajouter. Laissez-moi le temps de sortir les ponceuses quand même.
Voilà, les 500 mètres d'Indianapolis, bon, faut voir. Moi, je serais plutôt pour, puisque bon, j'ai jamais vu, j'étais pas né à cette époque.
Alors, il faut noter, hein, justement, que dans l'interview qu'il donne au Late Show de Letterman, donc Letterman qui est propriétaire d'une écurie en IndyCar, l'écurie de Takuma Sato, qui a failli gagner les 500 mètres d'Indianapolis cette saison, lui dit, mais voilà, mais vous allez à Austin, vous allez à New York, mais sur quel circuit tu penses qu'on devrait faire la course en Amérique du Nord? Et là, Vettel admet à demi-mot Indianapolis.
Ouais, donc voilà, ça peut être intéressant, parce que là, du coup, on aurait des écarts vraiment faibles, tous joueraient pour un rien, on pourrait avoir, je sais pas, une Toro Rosso qui gagne, c'est possible, voilà. Sinon, c'était quoi les autres trucs où j'étais pour, à part les Grands Prix?
Tu étais pour le départ de Lewis Hamilton en fin de saison.
Ah oui, alors, bah ouais, parce que bon, moi j'aime bien quand ça change un peu, là, ça fait quand même 6 ans de suite. Voilà, s'ils pouvaient changer d'équipe, histoire de qu'on ait de nouvelles têtes chez McLaren, et inversement, on a Hamilton dans de nouvelles couleurs, ouais, c'est toujours plaisant. Bon, après, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il se sent bien, tant mieux. S'il aime bien perdre du temps lors des arrêts au stand, tant mieux pour lui. Voilà. Voilà, un petit Hamilton et Alonso chez Ferrari, ce serait assez drôle.
Jamais de la vie, monsieur, jamais.
Ça serait très drôle.
Moi, je ne veux pas.
Je sens que ça va bien se taper sur le coin de la gueule. Et bah voilà. Et sinon...
En troisième thème.
Ah, ça fait déjà deux.
Ouais. Alors, c'est quatre, techniquement, mais bon, comme t'as regroupé...
Ouais, non, mais les Grands Prix, voilà, c'est regroupé la même chose. Hamilton. Et dans les pas pour, c'était quoi? Les femmes et puis quoi d'autre?
Les femmes, la retraite de Massa, la Super League Formula et les petits trous dans les monoplaces.
Ouais.
Pas de Superman, ça, je pense que tu reviendras pas.
Oui, non, ouais, je m'en fous.
Non, ne t'en fous pas, c'est une question fondamentale, c'est comme la question du Schweppes. Voilà, il y a vraiment des enjeux, on parle de la Syrie, on parle de trucs super sérieux, mais quand même, la question, le slip de Superman, comment ce mec qui a des super pouvoirs est même pas capable de lire la notice d'un slip. À un moment donné, faut...
J'aimerais préciser, en tant que personne un peu plus spécialiste que les deux autres, qu'il y a des comics où il n'a plus de slip.
Waouh! Mon dieu!
Mais il a toujours ses trucs moulants.
Ah.
Mais la question, c'est est-ce qu'il le met en dessous?
Ça, je ne l'ai pas.
Est-ce qu'il met plus de slip, je
suis porté un... Tu vas le voir, vous portez un slip, monsieur? Voilà, et sinon, les femmes en F1, bah, pour une raison bien simple, dans toutes les compétitions, c'est pas mixte, donc je vois pas pourquoi en F1 il y aurait il y aurait une femme au milieu de tous les hommes, et si on veut qu'il y ait des femmes en F1, il faut qu'il y ait une vingtaine de femmes, et on fait un championnat de Formule 1 exclusivement réservé aux femmes, avec des hommes porte-panneaux en mode pin-up, et puis voilà. Mais de toute façon, voilà, par exemple, à l'Euro de foot, il n'y a pas une femme dans une équipe masculine, voilà. Donc c'est un...
Oui, mais elle a... À the race of the boat, là, the boat race, là, ton truc, c'est une certaine. Il y avait des femmes dans les équipes.
Ouais, mais c'est
barreuse.
C'est les Anglais.
Elle était dans l'équipe, tu dis. Hein? On n'a pas forcément dit qu'elle avait piloté, la femme en Formule 1. Ça pouvait être une femme, je sais pas.
Pourquoi? Qu'est-ce que je veux qu'elle fasse d'autre?
Je sais pas, elle pouvait peut-être essuyer le casque du pilote, lui repasser sa combinaison, un truc dans le genre, je sais pas.
Bon, bah, en tout cas.
Trouver une place.
Non, mais en tout cas, en femme pilote, s'il faut qu'il y ait une femme pilote, faut qu'il y en ait 20 et on fait un championnat à part. Voilà. Voilà. Et sinon, pour le Hungaroring.
Ah, mais non, trop tard. Non, je suis obligé. Il y a une règle. C'est 3. Trop tard. Je sais. T'allais dire des trucs de bien. Mais je suis obligé. Il y a une règle. C'est 3 maximum.
Ah, domination de Ferrari. J'adore ce circuit. Je suis super performant sur les jeux de F1 sur le Hungaroring. Et voilà.
Tu me diras, ça, c'est une preuve parce qu'on a entendu cette semaine que, Romain Grosjean a dit, ouais, non, mais j'aime beaucoup le circuit, du Montréal et tout, mais les gens lui disent, mais t'as jamais roulé dessus. Ouais, non, mais sur Xbox, il est pas mal, j'aime bien. Et en fait, tu vois, ça lui est plutôt bien réussi.
C'est vrai.
Ouais.
Donc ensuite, Bilo, quelle est l'actu dans ces 15 derniers jours dont tu n'as, strictement rien eu à foutre?
Alors, généralement, c'est Steph Curry qui les écrit.
Non, il écrit pas. Il choisit les actus de merde, mais voilà. Il écrit pas. Malheureusement, ça, on s'en charge. D'ailleurs, j'en profite justement, comme on parle de la rédaction, et en laissant le temps à Bilo de chercher, pour saluer toute la rédaction et tout le travail, parce qu'on a fait tous ensemble un gros week-end avec le live, donc on va un peu les citer parce que, histoire de citer tout le monde. On va citer donc Fab, que vous connaissez dans l'émission. On va aussi citer Marc, qui est tout nouveau. C'est Gus Gus, que vous connaissez aussi dans l'émission. C'est son week-end, son baptême du feu. Il a battu énormément de travail. On va citer Clément, on va citer Benoît. On va citer Romain, et puis on va citer ceux qui nous aident tout au long de l'année, Axel, j'en oublie certains, Quentin qui vient d'arriver, qui fait la chronique du jeudi, voilà, ça, pour saluer tout le travail de toute la rédaction.
Et toi?
Qui a... Oui. Ah. J'allais pas m'autociter.
Mais oui, David, il attendait.
Oui, non, alors, oui, non, effectivement, on va surtout saluer le travail de Dino.
Je vais me saluer aussi.
Donc alors, est-ce que tu as trouvé une actu t'as rien à foutre?
Parce que là, le problème, c'est que sur FNF1, là, c'est que les toutes premières, c'est dimanche.
C'est que des bonnes actus passionnantes.
Voilà. Parce que bon, il y a Paul Pitch qui est mort, mais ça, si il dit que je m'en fous, je vais me faire taper dessus.
Donc, tu peux.
Non, je vais trouver quelque chose de...
Après, je t'expliquerai en 3 volumes pourquoi c'est intéressant, mais...
Non, c'est surtout que, voilà, il y a un mec qui est mort, ouais, mais je m'en fous.
C'est juste le seul pilote de Formule 1 qui a vécu plus de 100 ans. C'est vrai que c'est pas important. Je savais même pas qu'il y avait un pilote centenaire en Formule 1. Enfin, un centenaire, enfin, pas un pilote centenaire, mais un pilote qui avait vécu 100 ans. C'est un pilote centenaire, bon, je sais que... Le mec... Ça conduit vieux,
une
mais...
Une crise cardiaque pendant le Grand Prix.
Ouais, le DRS.
Sky obtient également les droits pour l'Italie, voilà. C'est une bien bonne actu de merde. Voilà, je n'ai strictement rien à faire. Voilà, je m'en fiche.
Donc saluons aussi Mathieu, au passage, qui est aussi rédacteur pour le site. Salut Mathieu. Il faut donner des visages aux gens.
Désolé Mathieu. Mais de toute façon, c'est pas de ta faute. Hein.
Ensuite, quelle est l'actu que tu aimerais lire dans les prochaines semaines, dans les 15 prochains jours, disons?
Oh, il y a Grosjean, enfin successeur de Panis, ou Schumacher, enfin le retour. Ah, des actus comme ça, quoi.
Et au contraire, quelle serait l'actu que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines? Vettel encore.
ça va, il a pas trop gagné encore.
J'ai un truc, mais je sais pas comment le formuler.
Bah, c'est pas grave, crash par terre et on fait le truc.
Bon, un truc, les grosses équipes redominent le championnat.
Oui, c'est une vraie actu.
Voilà, ça j'aimerais pas.
Et enfin, quel serait ton drive-thru of the weekend?
Putain, j'y ai pas pensé.
Tu veux que je demande celui de Shinji avant, comme ça tu peux réfléchir?
Bah ouais, laisse Shinji. Enfin, je réfléchis. Mm.
Donc Shinji, est-ce que tu as un drive-thru?
J'en ai un. Oh, bah oui, j'en ai un. Je suis sûr en plus que je l'ai déjà fait. Mais là, ça m'a... Ouf. C'est nos chers commentateurs de chez TF1. C'est-à-dire, entre... je suis sûr que je l'ai déjà fait. Je suis sûr que c'est soit toi, soit moi. On l'a déjà fait, mais là, là j'en peux plus. Ah, les pneus qui sont durs, tendres, options, super...
Ah oui.
Prime. Non, arrêtez.
Ou mettez... Surtout, c'est pas compliqué, quoi.
Ou mettez-vous d'accord, quoi, pour utiliser... Même eux, ils s'en mêlent les pinceaux. Même eux.
Ça, c'est pas compliqué à comprendre, quoi. Prime, c'est les plus durs, et Option, c'est les plus tendres.
Non, mais le pire, c'est qu'ils ils doivent même pas... Pirelli a insisté pour qu'ils disent tendre, super tendre, dur et médium. Et c'est Malbranche qui sent bien berlificote avec Prime et Option.
Alors, parfois, ils te disent, ah oui, ou les durs, mais qui sont pas les durs, parce qu'en fait, c'est les tendres. Du calme, les gars, du calme.
C'est pour ça, en fait, que c'est un peu piégeux, parce que quand par exemple, là, ce week-end, il y avait super tendre et tendre, le problème, c'est que pour ceux que, bon, qui connaissent bien la F1, mais qui connaissent pas trop les allocations de Pirelli, si tu dis tendre, pour eux, ça va être les plus tendres.
Oui, mais après, il suffit juste d'expliquer. Enfin, à un moment donné, c'est aussi leur boulot de commentateur de dire, voilà, écoutez, cette semaine... En plus, ils le disent au début de la course. Il y a une animation spéciale au début de la course. Cette semaine, c'est tendre et super tendre. Voilà, et on dira tendre et super tendre. C'est juste, c'est juste leur habitude qu'ils n'arrivent pas à changer.
Il suffit juste de dire en début de course, voilà, lesquels sont utilisés, lesquels on va parler. Et en plus, en effet, cette année, il y a eu du progrès, puisque sur les affichages, maintenant, t'as les marquages rouge, jaune, vraiment pour que les gens puissent savoir quel type de pneu. Je suis sûr qu'on l'a déjà fait, celle-là, mais non, j'en pouvais plus, c'était pas possible. Et eux-mêmes, ils s'en mêlent. Quand ils commencent à discuter entre eux de ça, ils s'en mêlent eux-mêmes.
Tu vois, par contre, du coup, s'ils faisaient ça, ils n'auraient pas besoin d'annoncer la victoire de Lewis Hamilton au bout de 20 tours. Au bout déjà de 20 tours, il était en train de nous dire que la victoire d'Hamilton était méritée. Et à un moment donné, Jacques Lafitte
a dit «
il reste quand même 50 tours ».
Du calme.
Mais ça, c'est,
voilà,
c'est
pas gagné.
C'est Malbranque, ça. Ça a toujours été Malbranque. Oui, c'est le fan absolu. Je me rappelle du Grand Prix d'Espagne où, dès le cinquième tour, il disait « Hamilton, c'est le vainqueur moral ». Le mec, il partait dernier et il qualifie déjà le vainqueur moral, quoi.
Malbranque a quand même osé la comparaison entre la pénalité infligée à Michael Schumacher et la pénalité infligée à Lewis Hamilton.
Oui,
dans
oui.
un cas, il y a une pénalité pour un incident de course. Dans l'autre cas, il y a une pénalité qui est infligée. C'est pas une pénalité, c'est un déclassement pour une suspicion de tricherie. Donc c'est pas pareil. Enfin, de non-conformité, on dira.
Voilà, de non-conformité.
Parce que tricherie implique une volonté, alors que non-conformité implique l'erreur.
Donc voilà. Bilo, donc ton drive-through.
Bah ça va être des petits drive-through. Enfin, j'en ai un pour les commentateurs, mais pas pour les raisons de pneus. Voilà, on en a parlé. Malbranque qui fait qui abandonne toute idée d'objectivité dès qu'il s'agit de Hamilton, en fait. C'est un peu pénible parce que voilà quoi. Des fois, on est content de la victoire d'Hamilton et lui, il gâche tout en nous parlant de la victoire au bout d'un tour, alors que lui-même est adepte de dire à 5 tours du but, alors que le premier a 40 secondes d'avance sur le deuxième, et il est capable de dire « Ouais, mais rien n'est arrivé, tout peut arriver !» Et là, quand c'est Hamilton qui prend la tête, « Ah, donc la victoire d'Hamilton, elle est méritée !» Et globalement, une prestation plutôt particulière des commentateurs de lors des essais libres, il y a Lafitte, je sais pas, il nous a fait quelques petits numéros, il était content de lui, il a commencé à nous parler de je sais plus quoi là, de s'il avait mal à la météo, en fait c'est s'il avait mal à la jambe, c'est qu'il allait pleuvoir, un truc comme ça. Mais
ça, c'est sympa, ça.
Il a dû fumer du shit, un truc comme ça.
Non, il a juste de la reprise.
Oui, ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Donc c'est tout pour ton drapeau. Voilà.
Non, j'en ai un petit deuxième pour Villeneuve, voilà, quand il dit que si Lotus n'a pas gagné, c'est à cause de ses pilotes. Voilà, quoi. C'est pas très classe, sachant que ce sont les deux, n'ont pas piloté lors des deux dernières saisons. Donc, voilà.
Et en même temps, dans le raisonnement, il a raison. Il dit s'ils en avaient mis Vettel, Alonso ou Hamilton, ils auraient déjà gagné. Donc oui, voilà, ça inclut aussi le fait et derrière qu'il ne précise pas vraiment, mais ça, enfin tout le monde comprend bien quand même que derrière on comprend qu'aujourd'hui Raikkonen et Grosjean aient des circonstances pour expliquer ça. C'est pas forcément la déclaration où il a été le plus con.
Non, mais ce que je veux dire
aussi, qu'il a mis la barre très haut.
Il dit pas.
Alors, il met souvent la barre haute. Hein.
Ouais.
Non, oui, Las Vegas, il est...
Il ne dit pas, que les deux ont des circonstances atténuantes. Je pense même pas qu'il pense au fait qu'ils étaient pas
non,
là.
Non, mais c'est ça, justement, c'est qu'il se contente de dire, avec Hamilton, Alonso et Vettel, la Lotus aurait déjà gagné. Derrière, il est pas en train de dire que c'est des Brailles et compagnie. Il est même pas justement en train d'étayer son propos. Il affirme juste un truc. Derrière, sans strictement donner aucune explication. Alors, est-ce qu'il l'a mis, parce que la phrase est quand même très courte, donc est-ce qu'il l'a dit et qu'on a coupé le reste parce que c'est la seule phrase qu'on a retenue.
On sait quand même que Villeneuve n'aime pas vraiment Raikkonen, quoi. Dès qu'il a l'occasion de le descendre, il le fait, quoi. Donc c'est pour ça que...
Oh, c'est pas nouveau. Et toi, Dino ? Tiens.
J'hésite parce que j'en ai deux. Si tu permets, je te dis, je vais faire les deux, mais je vais être court sur les deux.
Vas-y, si t'es court.
Je vais être court, mais intense.
Promis.
D'accord. Si. T'es prêt?
Ok.
Alors, le premier, ça s'adresserait vous avez été très nombreux pendant le live, et je dois quand même vous dire, à un moment donné, je veux bien qu'on tape sur TF1, mais arrêtez de taper sur TF1, hello, parce que c'est indigne qu'ils diffusent pas la course. Il y a quand même en face une élection législative, qui est quand même bien plus importante qu'une course de Formule 1. Bon, gardons un peu le sens des priorités. Je sais que plusieurs fois, dans le live, j'ai répondu à des messages, on a reçu des messages de gens qui se plaignaient et compagnie. Faut aussi comprendre que, là, exceptionnellement, il y avait l'élection législative, qu'on pouvait pas, c'est pas prévisible au moment où ils faisaient le calendrier. Enfin, ils n'allaient pas non plus adapter par rapport à ça. Ça nous arrive chez nous, ça arrive dans d'autres pays à d'autres moments. Voilà. Donc, on peut comprendre quand même qu'il y a un certain sens des priorités. On reproche souvent à TF1 d'en avoir rien à foutre de l'actu, etc. Au moins, là, ils sont sur la grosse actu du moment, ne leur reprochons pas. Et ensuite, j'aurai un deuxième drapeau. Alors là, je sais pas du tout ce qu'ils ont fumé à Brisighella. Puisque Brisighella, c'est la ville de naissance de Lorenzo Bandini.
Oui.
Tous les ans, il donne le prix Lorenzo Bandini, le trophée Lorenzo
prestigieux,
Bandini.
Prestigieux, faut le dire.
C'est très prestigieux, qui généralement s'accompagne d'un parcours de 12 km dans la monoplace entre Faenza et Brisighella.
Il faut rappeler le principe du trophée. C'est important de le préciser avant ce que tu vas dire.
Oui, que c'est les jeunes prometteurs.
Jeunes prometteurs par rapport à la saison précédente.
Voilà.
Et donc là, ils ont décidé de récompenser Bruno Senna, qui, comme vous le savez, en 2011 n'a fait que 7 courses, je crois. Face quand même à des pilotes genre Sergio Perez, voilà. Paul Di Resta, à la limite Pastor Maldonado, Vitaly Petrov, et pourquoi pas Eki Kovalainen, qui ne l'a jamais eu et qui a fait une super saison et qu'aurait mérité peut-être ce trophée. Voilà, je trouve le choix un peu merdique.
En regardant, puisqu'il y a un article sur FanF1 qui a été posté, je vois
il est très bien écrit d'ailleurs.
Et on voit déjà parmi vos commentaires que, je crois que beaucoup de gens pensent comme toi, Dino.
Mais oui, mais c'est incroyable de le donner à ce mec-là, enfin. Alors, est-ce qu'ils ont pas voulu le donner pour se dire comme ça on aura mis le nom Sénat ou... Voilà. Alors après, c'est vrai que je veux bien en plus que derrière, c'est vrai qu'il a aussi un parcours un peu atypique, qu'on peut saluer. Maintenant, ça reste quand même un pilote de Formule 1 qui aujourd'hui casse pas trois pattes à un canard. Et est-ce qu'il n'y a pas mieux en ce moment en Formule 1 que lui?
Oui, voilà.
Surtout qu'en plus, moi sur son parcours, j'ai pas non plus l'impression que ce soit un mec qui se soit beaucoup cassé le cul pour y arriver. Certes, au début, il a dû lutter contre sa mère, mais derrière, il s'est jamais remis en cause, comme a pu se mettre en cause un Romain Grosjean en retournant en AutoGP et compagnie. Non, lui, il s'est juste dit, je suis pas en Formule 1, je me remets pas en cause, je vais attendre, parce que son nom et ses sponsors vont faire un truc un jour. Donc le donner à ce mec-là, moi, ça me dérange un peu.
N'empêche, s'ils choisissent Senna cette année, pour l'an prochain, pour Romain ou Sergio, grosse cote.
Ah oui.
là, je pensais les deux.
Voir Maldonado.
Maldonado.
Oui. Faut quand même rappeler que dans les récents vainqueurs, donc tous les champions du monde qui sont en activité aujourd'hui l'ont reçu.
Et l'ont reçu avant, parfois un certain nombre, avant même d'avoir été titré.
Oui. Après, il y en a d'autres qui l'ont eu, c'est Juan Pablo Montoya,
Rosberg.
Rosberg qui l'a eu, Weber, Trulli, enfin voilà, des mecs qui ont gagné quand même. Voilà, donc ça met un peu aussi la pression sur Senna.
Oui, parce qu'il disait bien, que depuis 2000 ans, en fait, tous ceux qui l'ont reçu ont gagné des courses, au moins.
Voilà. Le mec avant, c'est Alexander Wurz, vaut mieux plutôt être du côté des années 2000 que du côté des années 90.
Voilà.
C'est Alexander Wurz des années 2010. Un peu ballot.
Juste, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit sur TF1. Alors, je suis d'accord avec toi, en effet, on peut pas comparer l'importance d'une soirée électorale et de la F1, parce que, entre guillemets, de la F1, c'est que de la F1. On est bien d'accord.
Oui.
N'empêche.
Ah oui, mais après c'est le deuxième partie de soirée. Je suis bien
ils auraient quand même pu faire beaucoup mieux. Ils auraient pu, par exemple, passer le Grand Prix, le passer sur Eurosport, mais pourquoi pas faire un live vidéo sur le site Eurosport. Ils le font pour les matchs de foot, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas le faire pour les Grands Prix de F1.
Ah là-bas, t'es fou. On est bon pour payer, nous.
Hein? Et en effet, le fameux coup de la seconde partie de soirée, à 22h, la soirée électorale, elle était terminée. Et encore 22h, je suis optimiste, c'est-à-dire que c'était à 40, hein. 40-45, elle était terminée. Donc, ils auraient tout à fait pu lancer à 22h le Grand Prix. On l'aurait, bon, il y aurait eu un différé de 2h, mais bon, voilà, si le Grand Prix commence à 22h, ça te fait terminer le, la retransmission à minuit, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent le lendemain, hein.
Ouais.
Et au lieu de ça, non, on passe 3 épisodes d'Esprit Criminel et on passe le Grand Prix de F1 à plus minuit passé.
À noter aussi qu'ils ont des partenariats avec des chaînes sur la TNT, mais qu'ils ne peuvent pas le faire, puisque, enfin, ça serait associé, par exemple, à, je sais pas, je crois qu'il y a TMC qui est de leur
TMC,
groupe NT1.
TMC, NT1, mais c'est pas, faut.
Mais voilà, enfin, c'est, ça serait induit plus les gens, puisque contrairement à M6 ou France 2, qui ont des chaînes typiques, voilà. M6, on sait que c'est W9, et France 2, on sait que c'est France 3, France 4, France 5. TF1, ils ont pas vraiment une chaîne sœur sur la TNT. Donc c'est plus difficile à recaser.
Elles font partie du même groupe, mais c'est pas exactement de la même façon qu'en effet France Télévisions ou même si c'est W9. Elles ont un fonctionnement plus autonome. Donc là, même du point de vue des contrats, c'était peut-être pas forcément possible. Mais il y avait des choses qui auraient pu être beaucoup mieux faites. Hein. D'ailleurs, on paye, tu remarqueras pour Eurosport, mais il y a quand même eu de la pub. Hein. Merci.
Ouais, notamment. La première pub, je sais pas comment ça fonctionne, les pubs. Est-ce qu'ils ont des plages? Est-ce que, voilà, de 20h20 à 20h30, vous devez mettre une page de pub? Ou est-ce que c'est, voilà.
Normalement, ils ont une certaine durée de publicité par heure, mais sachant que c'est calculé sur la journée et tout, donc,
C'est eux qui la mettent quand ils veulent, ou est-ce qu'ils ont une plage à telle heure, voilà, ils doivent la mettre environ, ou est-ce que, voilà, ils doivent la mettre 4 fois et c'est quand ils veulent?
Alors, de mémoire, je crois qu'ils doivent, ils ont un certain nombre à le mettre. Après, ils sont libres parce que quand on télécharge les versions anglaises et compagnie, c'est jamais les pubs au même moment.
Oui.
Maintenant, je pense qu'il y a peut-être aussi dans la législation française un délai entre chaque pause pub.
Ah oui.
Donc, des fois, on sait que Malbranque dit on doit la mettre. C'est parce que s'ils la mettent pas tout de suite, après, ils seront en retard sur les autres créneaux et ils pourront pas mettre les 4 pages de pub. Donc, je pense que, effectivement, indirectement, ça implique qu'il y a une certaine fourchette dans la course. Au début, ils se disent, tiens, là, on va la mettre à peu près aux environs du 12e tour. Et donc après ils font en fonction des événements. Des fois ça tombe quand même très mal. Enfin là je suis tombé sur le passage de la
plus,
tête de course.
Il l'a dit en plus quand il a repris.
Ouais, il l'a dit.
Parce que faut le dire, hein, pour ceux qui n'auraient vu que la rediffusion, les pubs on les a aussi eu sur Eurosport.
Et c'est pareil, c'est ce qu'il faut aussi dire aux gens sur Twitter. Moi, ça sert à rien non plus s'en prendre à Malbranque à cause de la diffusion. Il n'est pas responsable de diffusion, il est commentateur. Voilà, c'est pas lui qui programme, c'est pas lui qui décide de tout ça. Ça le fait autant chier que nous de pas avoir la course en direct. Et voilà, donc il faut aussi lui lâcher un peu la grappe. Aller voir TF1, appeler TF1, mais c'est pas lui, c'est pas son problème. Lui, il est là, il est payé pour commenter, il commente la course. Il n'est pas payé pour faire la diffusion de la course.
Juste aussi un petit dernier truc quant à l'importance. Du côté actualité, il y a aussi beaucoup des questions d'audience. Si par exemple France-Angleterre avait été dimanche à 20h45, la soirée électorale serait terminée à 20h40 et ils auraient fait une deuxième partie après le match de foot. Vu les audiences.
Il y a de belles audiences, France-Angleterre.
10 millions avec des pics à 14 millions. Crois-moi que si ça avait été ce cas-là, la soirée électorale, ils l'auraient coupé en deux.
Non, mais ça, voilà. Ils peuvent pas le prévoir après.
Non, enfin attention.
Voilà, ils coupent, tout simplement, ils disent, bon, bah, écoutez, là, ce soir, avec le match de foot, c'est ça le truc, c'est si ça avait effectivement été le foot, on se serait plus facilement arrangé. Pourquoi? Parce que le foot, ça fait 10 millions. La F1, ça fait 3, 4 millions maximum. À la limite, à une heure de grande écoute, ça fait, allez, 5, 6 millions peut-être. Mm. Mais, c'est en dessous de ce qu'a dû faire la soirée électorale.
Ils ont fait 6 millions et quelques.
Là où le foot fait largement au-dessus. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'il résonne, c'est en termes d'audience.
Du coup, ouais, c'est contre TF1, parce que, bah, voilà, les pubs, si c'est TF1 qui décide de mettre les pubs, c'est un peu idiot d'avoir attendu le 15e tour en plein pendant les ravitaillements, alors que d'habitude, en plus, ils le font dans le tour, bah, voilà.
Ils sont très concentrés sur le début de la course.
Voilà, alors qu'il s'est rien passé. Ils étaient tous dans le train-train, et puis voilà, quoi.
Eh bien, passons à la course, et au qualif. Et, encore une fois, il est plus qu'habitué là, hein. C'est problématique. Cette semaine en plus, il a été moins bon que les Caterham.
Faut avoir les circonstances atténuantes aussi. La nouvelle version.
Non, apparemment, elle marche, hein, parce que voilà, c'est Jean-Éric qui ne fait que 20e, même les Caterham ont été devant.
Il est à une seconde de Ricciardo, je crois.
Ouais.
Il faut savoir qu'en fait, donc effectivement, il avait deux versions, mais en plus, il avait une version différente de Ricciardo au niveau des échappements. Mais en plus, l'écurie dans la nuit de vendredi à samedi a changé beaucoup de choses sur la voiture. Ce qui fait que lui, il a redécouvert la voiture et apparemment, on sait qu'il aime pas trop ça. Avoir une voiture, il aime bien avoir une bonne base et ensuite travailler au fur et à mesure. Et là, la voiture était complètement différente, ce qui est peut-être sans doute pas anodin dans son erreur aux essais libres 3, puisque c'est une petite erreur au freinage, ce qui fait qu'il rate la trajectoire idéale, puis il mordouille un petit peu sur l'herbe et ça se finit dans le mur. Donc c'est pas non plus une grosse erreur, c'est voilà, je pense que c'est plutôt le pilote surpris par le comportement de sa voiture au freinage qui fait un petit écart de trajectoire et derrière ça se paye cash, ce qui fait que du coup les premiers tours qu'il fait c'est en Q1 et là en Q1 enfin ça a été très compliqué avec des réglages où en plus changement de température a fait qu'il n'était pas du tout sûr du fonctionnement des pneus et compagnie, donc ça fait une seconde. Il y a sincèrement, il n'y a pas une seconde entre Ricciardo et Vergne, c'est pas possible.
Vivement qu'il y ait le nouveau package à Valence.
Faut quand même reconnaître que voilà, en qualif c'est pas un pilote de qualif apparemment, il n'y arrive pas en qualif. Heureusement qu'il se rattrape toujours en course. C'est plus important qu'il soit plus performant en course qu'en qualif, mais c'est vrai que les qualifs, c'est son point faible, indéniablement.
Alors en Q2, on note quand même en 16e et 17e place les deux Williams. Alors bon, Senna, il a été derrière tout le temps. Maldonado, il s'est distingué. Il a fait du rodéo.
Senna en qualif était pas mal. Il a été foireux tous les essais libres. Il a fait un nombre d'erreurs incalculables, dont une qui lui a souhaité la bienvenue au Québec. Mais en qualif, il était pas mal. Hein. Il aurait sincèrement, je pense même, il aurait pu flirter avec la Q3.
Et Maldonado. Ah, il fait 16e.
Oui, mais sur ce qu'il faisait avant, Senna, sur la manière dont ce qu'il montrait avant, ça valait pas une 16e place. Ça valait peut-être pas une Q3, mais ça valait peut-être 12 ou 13 maxi, pas 16e.
Ouais. Maldonado qui a eu de la chance, hein, quand même sur son.
Ouais.
Son tourniquet, même... son. Ah ouais, non mais ça aurait pu être. On est au Canada, hein. Le mur n'est jamais très loin.
C'était très beau à voir.
C'était très artistique.
Moi, ça a été mon fou rire du week-end.
Donc sinon, Perez seulement 15e, j'ai envie de dire, pour une sauber, c'est bas, je trouve.
Ouais, de toute façon, Perez, il est nul, de toute façon. Hein. C'est nul.
Donc, Ricciardo qui fait 14. On notera Raikkonen qui fait que 12.
Oui, il avait un problème de différentiel.
Problème de différentiel. Alors, il y a le drapeau jaune qui nique son dernier essai, mais je suis pas certain qu'il aurait fait beaucoup mieux. Ou s'il était passé en Q3, je pense.
Ah, de toute façon, même sur voilà. L'ensemble du week-end, il a pas l'air non plus de pouvoir faire.
S'il passe en...
Les Lotus ont pas eu l'air. C'est plutôt Grosjean qu'à.
Voilà, franchement, je pense que personnellement, s'il passe en Q3, il fait 9 ou 10, hein, pas mieux.
Lui non plus, les qualifs, c'est pas son fort.
Non, c'est un problème global des Lotus, même, on peut dire.
Ouais, mais Grosjean.
Grosjean se démerde quand même beaucoup mieux, ça c'est vrai.
Voilà, alors Raikkonen, il mise plus sur la course. Il se dit, voilà, c'est pas grave si je rentre pas, il se concentre.
En même temps, mais on l'oublie, mais Raikkonen, c'est un peu sa marque de fabrique, hein, c'est les courses.
Oui.
Le nombre de courses où il est parti dernier, où il arrivait à rentrer dans les points, voilà, bon, il partait pas dernier de son fait,
oui.
Dernier fait de la monoplace. En course, c'est pas surprenant. C'est vrai qu'en qualification, c'était un peu plus surprenant.
Sinon, en Q3, alors on a Button qui fait 10e. Encore, c'était déjà le début du mauvais week-end qui s'annonçait pour Button après déjà un mauvais week-end à Monaco.
Non mais alors en plus ça a créé une petite polémique en Angleterre puisque Gary Anderson qui est analyste pour la BBC s'est quand même étonné de voir que le changement de boîte avait pris ça a pris 2h30, 3h, enfin bien 2h parce que ça a commencé en première séance d'essai libre 1, ça s'est terminé au bout d'une heure, 1h15 d'essai libre 2. Gary Anderson a dit généralement un changement de boîte dans une équipe du niveau de McLaren, ça prend une demi-heure. Voilà. Alors je sais pas qui avait raison, mais ça s'est envoyé un petit peu des mots après s'interposer. C'est vrai que de la part de McLaren, c'est quand même super étonnant, une fuite d'huile dans la voiture, la première séance d'essai libre. Enfin, les voitures sont démontées, remontées. C'est quand même étonnant cette fuite d'huile. Enfin, je suppose quand même qu'ils refont l'huile dans la boîte et compagnie. Donc c'est quand même assez étonnant, je trouve.
Le Schumacher qui fait 9, Di Resta 8, Grosjean on l'a dit donc 7. Donc ce petit déficit quand même en qualif. Ils ont dit qu'ils allaient se trouver des trucs pour Valence.
Oui, Marseille, ils arrêtent pas.
C'est ce qu'ils disent.
Lotus, on a trouvé des trucs. Mercedes, on a résolu le problème des pneus.
Ouais, mais
on demande à voir.
Là, t'es mauvaise langue.
Prévenez-nous.
Ils ont quand même amélioré sur les pneus, hein, Mercedes.
Attends, ils ont plus dit.
Oui, mais de là à dire, on a trouvé la clé.
Ils ont trouvé la clé.
Enfin, sincèrement, en course.
Ils ont trouvé la clé, la porte grince encore. Voilà.
Non, honnêtement, ils l'ont trouvé la clé. Ils sont pas du tout en difficulté.
Non, ils l'ont pas trouvé. Ils sont mieux qu'avant. Maintenant, ils ont pas trouvé la clé dans la mesure où ils arrivent pas à allier la performance et la tenue des pneus. Aujourd'hui, les pneus tiennent peut-être beaucoup mieux, mais en performance, surtout au Canada, qui a un Grand Prix qui doit leur convenir, en performance, ils étaient pas là ce week-end.
T'as mis 14 secondes de victoire, c'est pas mauvais.
Donc, non, mais je parle pas en course, je parle en qualification. C'est trouver la clé des pneus, c'est aussi dans la performance. Force est de constater que les Mercedes n'étaient pas beaucoup dans le coup ce week-end et que trouver la clé, ça veut dire réussir à conjuguer à la fois la tenue des pneus et à la fois la performance. Pour le moment, l'équilibre, il n'est pas encore complet parce qu'ils font 6e en qualif avec Rosberg, je crois, ou 5e, et ils font 6e en course. Bah, je suis désolé, mais si ça s'appelle trouver la clé, je me demande ce que les autres ils ont.
Les écarts sont faibles.
Ils ont trouvé des trous sauts, voilà.
Oui, mais ça leur permet pas d'être devant. Même si les écarts sont faibles, il y en a d'autres qui font mieux. C'est tout.
Sur quelques week-ends, mais voilà, ils ont trouvé la clé. Niveau dégradation des pneus, c'est bon. Ils ont plus de problèmes. C'est en ça qu'ils ont trouvé la clé.
Oui, non, je suis bien d'accord. Ça s'est amélioré, mais mine de rien, en performance, ça reste en deçà de ce qu'ils pouvaient faire.
Ah tiens, un autre qui s'est amélioré, c'est Felipe Massa. Il fait 6e.
Ouais.
Quand même.
Ouais.
Oh non, saut pas.
C'est bon. Maintenant, ça y est. Oui, d'accord. Il a fait un bon Grand Prix à Monaco. On va pas non plus sauter de joie dès qu'il fait une 6e place. Il fait 6e, c'est bien. Alonso fait 3e, voilà. Donc il est à 3e d'Alonso, c'est bien. Maintenant, on va pas non plus sauter au plafond dès que Felipe Massa il fait une 6e place. On peut sauter au plafond une fois en disant c'est bien Felipe. Maintenant, on va pas non plus le faire à chaque fois. C'est comme Schumacher, quoi. Les mecs dès qu'ils font un truc de bien, il faudrait qu'on les applaudisse. Non. On applaudit quand ils font un truc de vraiment bien, et puis voilà, après...
Excusez-moi, mais à chaque fois qu'Alonso fait une course, on dit que c'est génial, même quand il se foire.
Voilà. Pas tout le temps.
Dès qu'il fait une erreur, on dit « Oh là là, c'est bien, c'est parce qu'il a attaqué, il lâche rien. Voilà. »
Donc après, donc Rosberg 5, t'en as parlé.
Ils ont trouvé la clé.
Mark Webber qui fait 4e, Alonso 3e. Hamilton qui fait 2e, moi j'étais presque déçu parce que franchement il a commencé quand même très très bien son week-end, il est quasiment tout le temps en haut de la feuille des temps, moi je pensais franchement qu'il allait être en pole.
Ouais, mais c'était trompeur parce que les écarts étaient très faibles.
Oui,
en fait.
C'est vrai.
Ouais. C'est drôle parce que le vendredi c'était Hamilton qui dominait et samedi dès les essais de 3 c'est Vettel qui s'est mis à dominer et en Q1, Q2, Q3 c'est toujours lui qui est premier je crois, donc voilà, il avait quand même une petite marge.
Et donc Vettel premier. Bon,
ce qui est intéressant, c'est que sur plusieurs sites de F1, même chez les commentateurs, tout le monde dit oh là là, Vettel il a dominé la séance, il les a écrasés. Et tu regardes, il fait des temps, il a 3 dixièmes d'avance, quoi. C'est-à-dire que cette saison, les écarts sont tellement faibles.
En même temps, justement, lorsqu'il y a la pole de Vettel, tout le monde fait aussi. Ouais, Vettel à la pole, mais c'est Hamilton qui va gagner.
Moi, sincèrement, j'étais pas aussi sûr que ça parce que Vettel a vraiment fait beaucoup de travail sur le fond, des gros relais avec les tendres. Et c'est peut-être ce qui lui a coûté cher avec les super tendres en début de course, c'est qu'il avait trop travaillé avec les tendres lors des essais libres. Et du coup, en course avec les super tendres et le plein, mais il connaissait pas suffisamment les pneus et il les a cramés plus vite que prévu.
J'avais quand même peur qu'il parte devant, qu'il fasse son petit matelas habituel et qu'il se fasse pas piéger quand même, parce qu'il il était vraiment serein quand même depuis le début.
Vettel qui est le seul à être descendu sous la minute 14, hein, puisqu'il a fait son temps en 1:13.784. C'est sa 32e pole position.
Et je crois que son deuxième meilleur temps était suffisant pour faire la pole.
Oui.
Alors, juste pour dire, hein, il est sixième en nombre de pôles, hein, à égalité avec Nigel Mansell, un type avec qui on l'a beaucoup comparé l'an dernier.
Oui.
Hein. Il est à une unité de Jim Clark et Alain Prost.
Ça, par contre, ça c'est...
Voilà.
Surtout Jim Clark, parce que quand on connaît Jim Clark, c'est...
Et en pourcentage, il est cinquième, parce qu'il a quand même fait la pole sur 36% des Grands Prix qu'il a disputés.
Je pense qu'il va taper le record quand même, parce qu'il a... Il a une arme en qualif.
Bah les, voilà, les 33, oui. il fera bien une pole un jour ou l'autre. Hein, ça, c'est pas trop un problème. Bon, après, la partie...
Non, mais il va battre le record. Hein. Les 60, les 60 et quelques.
Ah oui, sur la longueur.
Il va nous faire un petit 69.
69 qu'on a retiré à Schumacher. Hein.
Ah oui. Ah, non, on vient pas retirer.
C'est la 41e pole position pour Red Bull, la 197e pour Renault en tant que motoriste, à une moyenne de 212,778 km/h. À noter que par rapport à la grille des temps, il y a eu une seule rétrogradation, c'est celle de Maldonado pour changement de boîte. Ouais.
Et je crois qu'en Q2, il y a une seconde entre le premier et le 17e.
Ouais, tout à fait.
Mais même en Q1, je crois qu'il y avait une seconde entre le premier et le 15e, un truc comme ça. On va passer à la course et au top 10, messieurs.
Ouais!
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Alors Dino, peux-tu nous citer les pilotes qui ne font pas partie du top 10 cette semaine ?
Oui, Shinji, je le peux et je vais le faire. Puisque nous avons en 24e position, et c'est de dire qu'il mérite son trophée, c'est Bruno Senna avec 2 points. Ensuite, 23e, Vitaly Petrov avec 4 points. 22e, Ricciardo avec 6 points. 21e, Pedro de la Rosa avec 9 points. 20e, le chouchou d'Alexandre, Glock avec 11 points. 19e, Hülkenberg marque 12 points. 18e, Neran Kartikeyan agrandit sa base de fans avec 14 points. Eiki Kovalainen, 17e avec 19 points. Pastor Maldonado, 16e, 21 points. Charles Pic, le petit français, 15e avec 30 points. Jean-Éric Vergne, 14e avec 49 points. Michael Schumacher, 13e avec 99 points. Et son peut-être probable successeur, Paul Di Resta, le devance pour un petit point. 100 points pour Paul Di Resta en 12e position. Et enfin, Mister Eleven cette semaine, c'est Jenson Button avec 116 points. À noter que le leader du top 10, dont vous allez découvrir bientôt l'identité, on a marqué 1680 et nous vous en remercions.
Que suspense.
Le podium est à plus de 1000 points. Mais avant de parler du podium, nous allons parler des pilotes que l'on a cités, mais qui ne font pas partie du top 10. En commençant par Jean-Éric Vergne, 2 petits points Dino.
Ouais, parce que pour ce que j'expliquais, enfin, il n'a pas eu des conditions qui lui ont été très favorables. Il se qualifie mal, il essaie quand même de sauver les choses en course. Voilà, c'est pas son meilleur week-end, ouais. Mais c'est une petite note d'encouragement. J'avais quelque chose à dire sur lui, donc je l'ai classé.
C'est quand même la première fois depuis l'Australie que Ricciardo fait mieux que lui en course.
Et grâce à une pénalité. Hein.
Oui,
c'est vrai.
Ricciardo
fait une sortie.
Il y a son drive through. Ouais.
J'ai envie de dire, pourquoi donner les améliorations à lui ? Enfin, je veux pas faire mon chemin, mais il y a un pilote qui quand même essaie de faire le maximum en course et l'autre qui j'ai l'impression qu'il est en train de pourrir à chaque fois qui est en qualif.
Force est de constater que le pilote en forme en qualif, c'est Ricciardo. Et donc, du coup, tu veux vraiment avoir l'efficacité, la performance, entre guillemets, pure avec le truc, tu le donnes à Ricciardo. C'est le truc, c'est qu'apparemment, ils ont quand même deux pilotes qui ont des profils assez différents. Ricciardo qui est vraiment pas mal en qualif et Vergne qui est plutôt meilleur en course. Et puis, à un moment donné, il faut bien choisir. Oui. Ricciardo, il a quand même des grands prix en plus dans sa besace. Et je crois, de toute façon, qu'un peu plus, tôt dans la saison, c'était Vergne qui avait les nouveautés. D'accord. Donc, voilà, dans une équipe serrée, ça me semble aussi normal que un coup, on donne la nouveauté à un et puis après on donne à l'autre.
Tout à fait. Mais bon, pour revenir sur Ricciardo, comment il fait ? Parce qu'à chaque fois, il se fait démolir lors des départs. Il s'est retrouvé derrière Vergne lors du départ, comme à chaque fois, à peu près, alors qu'il est devant en qualif. Il a un problème avec les départs.
Mais après, il faut aussi noter que la qualification de Ricciardo, il y a aussi par exemple Maldonado qui part derrière parce qu'il a un accident et que peut-être que derrière Ricciardo, lui-même Ricciardo dit la 14e place, on n'espérait pas ça. Voilà, donc peut-être aussi que dès le départ, il se retrouvait devant des voitures qui étaient intrinsèquement plus performantes et qu'il n'a pas pu lutter dans les premiers tours.
En un tour, sachant que Maldonado, lui, partait 22e. Si Maldonado arrive à grappiller 8 places en un tour, il n'a pas fait ça.
Oui, mais Vergne, il n'est pas si loin que ça derrière, puisque Vergne, il est derrière les deux Caterham qui ne sont pas une difficulté pour une Toro Rosso malgré tout. Et il y a Senna, il suffit que Senna passe devant Ricciardo, que Vergne soit passé devant les deux Caterham, et automatiquement, il se retrouve l'un à côté de l'autre.
Ricciardo termine le premier tour derrière Vergne,
Oui, bah c'est ce que je viens de te dire.
Ouais, il perd 5 places.
Après, il se retrouve
là. Mais bah, il suffit pas d'une fois. C'est pas la première fois cette saison. Ça arrive tous les.
Ah oui, alors, je suis d'accord, c'est pas la première fois.
Ça arrive tous les grands prix.
Sinon, on a tous les trois donné des points à 10 restas. Alors, je lui en ai donné un. Bilo, tu en as donné 2. Et toi, Dino, tu en as carrément donné 8.
Ouais. Mais en début de course, à un moment donné. Alors, je savais pas du tout où il était, d'y resta. Et en début de course, à un moment donné, je l'ai vu 5e. Et je me dis, mais sincèrement, en quoi, en 10 secondes, il avait passé Massa et Rosberg. Alors que je ne voyais même pas, je crois que derrière Massa et Rosberg, il y avait Schumacher, je crois, donc il était encore derrière, et je sais pas ce qui s'est passé, il s'est pris pour Mimi Mati dans Joséphine Ange Gardien, il a claqué des doigts, il s'est retrouvé devant. C'est, je me suis dit, waouh! Et après, il s'est un peu éteint en course, mais voilà, c'est juste, voilà, je l'ai remarqué. Moi, j'ai, sincèrement, dans mon classement, j'en ai 5 qui sont sortis du lot. Et après, j'ai un petit peu, j'en ai mis certains un petit peu avec les talons.
Je te rassure, c'est un peu le cas de tout le monde.
Et c'est, Di Resta, c'est le seul que, de toute façon, j'avais décidé que je le mettrais dans le top 10. Donc, il se trouve que, bah, voilà, au profit des pilotes que je voulais pas mettre dans le top 10, il est remonté jusqu'au 6e rang.
Il a dépassé Rosberg et quelques secondes après, Massa part en tête à queue.
Et donc, le dernier de ce top 10, le 10e, c'est le pilote japonais Kamui Kobayashi. 292 points, il y avait quand même un bon écart avec le 11e. Et Bilo, tu lui as donné un point.
Il y a un moment qu'il l'ait mis ?
Ouais.
Bon, bah voilà, hein. Je l'ai mis 10e parce qu'il fallait bien 10e. J'ai mis 10e parce que j'allais mettre personne d'autre à la place, c'est tout. C'était un choix par défaut. Voilà, il fait quand même correct. Largement éteinte quand même par son coéquipier, c'est pour ça que je l'ai vraiment pas mis plus haut que ça, parce que on y reviendra, mais voilà, Kobayashi et Perez ont la même stratégie, Kobayashi est devant, et voilà, quoi, il y en a un qui termine troisième et l'autre qui termine.
Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que on a quand même l'impression que Perez domine Kobayashi, et pourtant je crois qu'avant la course, là c'est un, bon, on va retirer cette course là, mais avant la course, ils sont pas très loin l'un de l'autre au championnat. Parce que Kobayashi, il est toujours en train de prendre la 8e, la 9e, la 10e place. Là où Perez, il va beaucoup plus loin dans le classement, parce que bah, grâce à sa gestion des pneus, je pense sans doute, il arrive grâce à ses stratégies à gagner plus de places et à finir sur le podium, à finir 5e ou 6e. Et Kobayashi, bah, je pense que... Alors, il faudra que je regarde les chiffres, parce que j'ai pas le tableau en tête, mais je pense que Kobayashi est un peu plus régulier et que Perez fait plus des coups d'éclat. Mais enfin, c'est vrai que l'impression d'ensemble, c'est que Perez domine Kobayashi pour le moment.
Perez, a pas, en certaines occasions, n'a pas de chance, notamment en Espagne où il est quand même il est cinquième en qualif.
C'est-à-dire que Kobayashi
crève au premier tour.
Kobayashi marque des points tous les deux grands prix. Hein. Perez, en fait, il a marqué 4 points en Australie, 18 en Malaisie. Que dalle après.
Et il revient pour monter sur le podium.
Voilà, et direct 15 au Canada.
Voilà, bah, parce que il a voilà, en Espagne il a pas de chance. À Monaco, il se plante. En qualif. Et voilà, ceci explique cela.
Passons donc à la 9e place. C'est un pilote Ferrari. Non, c'était pas Fernando Alonso, voyons. Il a marqué 344 points, c'est Felipe Massa. Moi, je lui ai donné 4 points et Dino, toi aussi.
T'as vu, j'ai pas mis 15.
Ah non,
je me suis pas enthousiasmé comme une folle. Voilà, j'ai mis des points raisonnables. Oh. Je suis resté raisonnable. Ah. C'est ça, restons raisonnables.
Ouais. D'accord, il fait un bon début. Bon, après, malheureusement,
en dehors de sa boulette.
Voilà, il est sur sa lancée de Monaco, quoi. Et espérons.
Il est performant.
Voilà.
Il est performant.
Et il a expliqué hein, pour les réglages de Monaco, il a expliqué d'abord que ça convenait plus à son style, et en plus apparemment c'est pas forcément autant, parce que j'avais un peu rigolé en disant oh, je suis intéressé de savoir comment qu'il va faire, et apparemment en fait les réglages de Monaco sont pas forcément incongrus à Montréal, avec toute la partie sinueuse, c'est pas forcément une mauvaise idée que de prendre les réglages de Monaco pour base, et bah apparemment ça a marché puisqu'il fait son deuxième Grand Prix de suite où il est en qualification à 3 dixièmes d'Alonso, on peut pas lui demander plus quoi, parce qu'on sait très bien que c'est Alonso à côté, donc 3 dixièmes, c'est pas mal.
Il va être emmerdé quand même pour les circuits rapides.
Après, il faut l'avoir, mais c'est vrai que c'est lui, vraiment, ce qu'il a dit, c'est au moins, voilà, on a une direction, on sait pas si ça va payer, mais au moins on a une direction, on sait que cette configuration-là, avec moi, elle marche. Donc après, on va essayer, en partant à chaque fois de cette configuration-là, de trouver la performance. Parce que voilà, après, au moins, on part avec une bonne base, on n'est pas en train de fouiller dans tous les sens pour trouver une base. Ils l'ont, la base, on part comme ça, et après, on voit ce qu'on peut aller chercher.
Voilà, c'est dommage, j'ai fait une erreur. C'est un peu dommage. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait une erreur. Non, mais voilà, c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu voir ce qu'il donnait, parce qu'il était quand même avec...
Il y a quand même une bonne impression globale, ouais, sur Massa. Ouais. À la 8e place, je lui ai donné 2 points. Dino, tu lui as donné 1 point. Bilo, tu lui as donné 4 points. C'est Kimi Raikkonen. Il a marqué en tout 355 points. Là, toutes les places entre la 7e et la 10e, c'était assez serré. Bon, il part 12e, il finit 8e. C'est pas flamboyant.
C'est pas flamboyant.
Avec la stratégie qu'il avait, quand tu vois derrière ce que fait Perez, par exemple.
Ouais, voilà, c'est un peu embêtant.
Les qualités de la voiture, c'est vrai que forcément, il y a la comparaison qui vient derrière. On a vu un peu Kimi, maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, rien de flamboyant. Manque de bol, au même moment, son coéquipier fait le podium 2e place, et a fini à 2,5 secondes du vainqueur. Et, il y a un mec, sensiblement sur la même stratégie, qui s'appelle Perez, qui monte aussi sur le podium. Donc, c'est vrai que, le pauvre, il tombe sur le week-end où, il fait un travail honnête, mais,
C'est au métier, comme on dit, j'ai l'impression, un peu.
Voilà.
pas flamboyant. J'ai eu l'impression qu'à certains moments, sur les sorties de stand, il a pas eu de chance. Il y a une ou deux fois où il est coincé. Bon, après, il faut doubler, hein. Il le fait pas. Bon.
Il a aussi coincé les autres.
Il y a des problèmes avec les... J'ai l'impression que pour chauffer les pneus, pour mettre les pneus en température, il a des petits problèmes. Ça lui fait perdre du temps par rapport à, par rapport à Perez, hein, qui était sur une stratégie et qui s'est envolé tout de suite face à lui.
Et il y avait dans Dimanche F1 une indication très intéressante de Franck Montagny, un peu confirmée par Eric Boullier, qui expliquait qu'en fait la voiture était finalement mieux réglée pour les fins de course que pour les débuts de course. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple la course de Grosjean, c'est vraiment vers la fin qu'on le voit. Quand la voiture elle est dans les conditions où elle est réglée pour tel niveau de carburant avec tel pneu, là ça cartonne et il est vraiment très très fort. Et c'est vrai que c'est ce qu'il dit, c'est peut-être aussi ce qui les pénalise peut-être aussi en qualification, c'est qu'ils sont dans une configuration plutôt course. C'est peut-être justement ce qui lui coûte sur la chauffe des pneus et compagnie. Et c'est que voilà, tout n'est pas encore optimal.
Et en plus de ça, sur les début de course, fin de course, début de course, les Lotus sont bloqués derrière des voitures et fin de course, elles ont enfin la piste libre. Enfin, Grosjean surtout. Et
oui, parce que je crois que Raikkonen à un moment donné, c'est lui qui bloque tout le peloton derrière.
Ouais, mais lui-même est derrière Kobayashi.
En début de course, il est derrière Kobayashi.
Mais il me semble qu'il est encadré par les... Ah non, il est devant...
Il n'y a pas un moment où il est derrière Rosberg et puis...
Il est devant les deux Sauber, effectivement. Ah ouais, donc c'est lui qui bloque.
Bah, tout ce qu'à la passion, à la 7e place. Ouais. Oui, c'est déjà à la 7e place. Il a marqué 362 points. Donc, vous voyez, hein, encore un petit écart. C'est Mark Webber. Alors moi, je lui ai donné 6 points, Bilo aussi. Je t'avouerai, je me souviens même plus de sa course.
Sa course est détruite par le fait que lors de son premier arrêt, lui part derrière le groupe Raikkonen, Perez, Kobayashi. Et du coup,
il perd du temps.
Mais en plus, il y a même un problème moteur en début de course. Pendant quelques premiers tours où il y a ce qu'ils ont appelé une hésitation moteur. Enfin, qu'on m'explique ce que c'est qu'une hésitation moteur. C'est un moteur qui dit, est-ce que je tourne ou est-ce que je tourne pas? Je sais pas. Je fais 18 000 ou je fais 17 000? Je sais pas.
C'est un moteur normand.
Donc, voilà. Donc, c'est peut-être là-dessus aussi où il perd, peut-être, 2-3 secondes et qui, au final, effectivement, lors du changement de pneu, il ressort derrière et ça le pénalise. Comme il disait, c'est à ce moment-là, c'est soit vous les dépassez, sauf que c'est très dur de dépasser, et les conditions n'étaient pas forcément optimales. Vous flinguez vos pneus, vous devez repasser une deuxième fois au stand, et donc vous finissez derrière. C'est soit vous restez derrière, vous calquez vos stratégies, et vous restez derrière. Du coup, il disait, partir à ce moment-là, dès que vous êtes derrière, c'est foutu. C'est la course, allez, et voilà.
Comme il est bloqué, il y en a d'autres derrière qui en profitent, notamment Rosberg, et voilà, quoi. C'est dommage parce qu'il avait la bonne stratégie, il avait le rythme. Donc je pense qu'il aurait pu aussi accrocher un podium.
En plus, ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une opportunité. Enfin, après, ça c'est en connaissant le déroulement de la course, mais il y a aussi une opportunité par rapport à Vettel. Il avait l'opportunité de finir devant Vettel sans justement le fait de ressortir dans le peloton, d'être bloqué, compagnie. S'il avait le champ un peu plus libre, il aurait sans doute été beaucoup plus proche du paquet de devant et il aurait peut-être pu finir effectivement sur le podium et devant Vettel.
À la 6e place, non, on va passer à la 6e place. De toute façon, c'est Rosberg. Il a marqué 550 points. Vous avez l'intention de dire quelque chose sur Rosberg?
Oui. Pour une fois, j'ai un truc à dire sur Rosberg.
Toi qui lui as donné 6 points, dis ce que tu as à dire. Attention, attention, exclusivité. On va parler de Rosberg.
Oui.
Quand il gagne pas, je veux dire, mais quand il gagne, on en parle, mais.
Que Maldonado dont on parle pas.
Oui. Quand il gagne. On en a parlé. Enfin bon. Ne t'écoutons.
Donc, moi, ce que j'ai trouvé étonnant chez Rosberg, c'est que voilà, j'ai eu 3 pilotes. Il me restait 2 places. et j'avais pas encore casé Rosberg, j'avais pas encore casé Raikkonen et pas encore casé Weber. Et donc j'ai un peu regardé les classements et je me dis en fait Rosberg il termine quand même la course sixième. Alors qu'au début, il a l'air complètement largué. Il bouchonne, il se fait dépasser par Massa, il se fait dépasser par par Weber, il se fait dépasser par Di Resta. Donc,
et il finit
Et il finit sur le voilà, talon d'Alonso.
Bon après, donc, il aura peut-être c'est pas eu le temps, mais voilà. Même,
malgré tout, autant sa course m'a paru foireuse, autant quand même malgré tout, il est là à la fin. Donc du coup, je dis bon, bah voilà, bon bah il mérite sa place, contrairement à un Weber, sans le bon résultat.
T'es en train de me dire que tu prends la parole exceptionnellement sur Rosberg, tout ça pour dire qu'il a fait une course de merde.
Oui, mais c'est assez. Ça m'a semblé bizarre.
Peut-être
que justement, il a su subir en début de course. Gérer ses pneus et compagnie pour au final avoir un meilleur résultat et que c'était une stratégie qui était assez intéressante. Donc je dis voilà.
Mais tu sais, on parle de fanbase. Peut-être que la plus grosse fanbase, c'est celle de Rosberg parce qu'il est toujours là.
Oui. Hein,
qui sait ? Peut-être que sa fanbase est comme lui. On la voit pas, mais elle est là.
Oui.
Di Bilo, tu lui as donné 12 points quand même.
Bah oui, parce que si je regarde par rapport aux pilotes des autres équipes. Il se classe quand même devant une Red Bull, devant une McLaren. Il est sur les talons d'Alonso, alors que c'est pas forcément, comme a dit Dino, c'est pas forcément la chose dont on attendait de lui au début de course. Et il fait une très bonne course finalement parce que il a une bonne stratégie et il est performant à partir du 10e tour. Voilà, c'est vrai qu'au début il a du mal, mais après il est vraiment très performant.
Sur la fin, c'est pas tant lui qui est performant que Alonso qui a des pépins.
Non. Même sans comparer à Alonso et Vettel,
il finit à 15 secondes d'Hamilton. Oui. Hein, c'est pas.
Il trouve le moyen de faire mieux. Il fait mieux que Weber qui avait pris de l'avance et qui avait la même stratégie que lui. Et voilà.
À la 5e place. Il a marqué 842 points. Je l'ai mis 5e. Bilo l'a mis 5e. Mais Dino, tu l'as mis 2e. C'est Sébastien Vettel. Oui, il y a toujours une surprise avec Dino. Voilà, c'est la surprise du soir.
Non, il n'y a pas
T'avais
de surprise.
T'avais dit au début que tu n'avais mis ni Alonso ni Vettel.
Ah bah, je garde le suspense.
T'as mis 2e. Je me demande quel pilote t'as chassé du podium. Parce que franchement...
Bah, pour tout te dire, j'ai pas mis Grosjean et Perez.
Carrément.
Parce que, d'accord, ils sont sur le podium. Maintenant, c'est aussi grâce à des stratégies différentes. Moi, ce que j'ai souligné sur Vettel, et ça sera même cas pour Alonso, c'est le risque pris. Ils ont quand même pris un risque. Moi, c'est vrai que j'avais exprimé lors de la dernière émission mon inquiétude que les pilotes la jouent un peu à l'économie. Ils auraient très bien pu la jouer à l'économie et se dire, bon, bah, finalement, on fait un podium, on rentre au stand, on suit la stratégie d'Hamilton et on fait notre course et on finira sur le podium et ça fait des points pour le championnat, etc. Et finalement, ils l'ont pas joué. Alonso l'a pas joué, Vettel l'a pas joué. Et ce qui fait que j'ai mis Vettel devant Alonso, c'est que quand la stratégie est devenue foireuse, eh ben, il a changé de fusil d'épaule. Il s'est pas entêté comme Alonso. Il s'est dit, bon, c'est pas grave. Allez hop, on va remettre des pneus puis on va essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Donc, il y a un double risque quasiment même chez Vettel. Voilà. Moi, j'ai récompensé le risque. D'autant plus que, intrinsèquement, en termes de performance, les trois étaient devant et que, pour moi, c'était le podium idéal de cette course. Alors après, il se trouve que l'effet de course ont fait que Perez et Grosjean sont montés dessus. Maintenant, faut aussi tenir compte du fait qu'il y a aussi des stratégies, il y a aussi des différences. C'est-à-dire que dans la stratégie qu'adoptent Alonso et Vettel, ils adoptent une stratégie où ils peuvent perdre des choses. Alors que finalement, dans les stratégies à la fois de Perez et de Grosjean, ils n'ont pas grand-chose à perdre finalement. Aussi. Grosjean par 7e, Perez par 12e, je crois, 15e.
Oui, 15e.
15e. Donc finalement, voilà, avec leur stratégie, ils peuvent que gagner des choses. Même Grosjean, il peut que gagner des choses. C'est un pari stratégique qui vise à finir devant. Dans le cas de Alonso et Vettel, il y a quand même le risque qu'il y ait la dégradation des pneus qui jouent et compagnie. Et ils ont tous en mémoire quand même le précédent de Raikkonen en Chine et que ça puisse se terminer mal. Et finalement, ils ont bien sauvé les pneus. Donc moi, c'est plutôt le risque et la performance d'ensemble des deux pilotes que j'ai voulu récompenser plutôt que la stratégie où j'aime beaucoup les courses à la stratégie, mais voilà, ça me semblait plus important de récompenser Vettel et Alonso plutôt que Perez et Grosjean.
Moi, j'ai plutôt récompensé l'efficacité. Vettel a une Red Bull qui a quand même montré qu'elle était plus performante que l'autre Sauber. Il trouve le moyen de terminer derrière. Oui, il y a la stratégie, il y a le...
Ah voilà. Non, mais c'est ça. C'est que non, tu peux pas... Il y a la stratégie derrière. Non, mais alors après... Ouais, c'est un choix de stratégie. La stratégie, elle est bidon, elle est bidon. Mmh. Je suis bien d'accord. Mais derrière, moi, ce que j'ai voulu souligner, c'est le courage.
Mais ils peuvent vendre.
Derrière, où les autres, ils n'ont pas forcément de courage, dans la mesure où c'est, par exemple, Perez, c'est le genre de stratégie qui nous sort quasiment toutes les deux.
Mais oui, non. Oui.
Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est quasiment leur stratégie normale. C'est pareil pour Grosjean. Moi, je préfère souligner les vrais paris stratégiques. Je suis désolé, mais Perez et Grosjean, c'est pas des vrais paris stratégiques. C'est pas vraiment quitte ou double, quoi. C'est là pour Vettel et Alonso, c'était vraiment du quitte ou double. Et ça a été plutôt quitte ou double.
Mais pourquoi les paris devraient être toujours récompensés? Un pari, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. On peut.
Ah oui. Et je te rappellerai Bilo que celui qui a mis Alonso et Vettel devant, c'est moi. Et justement, ça a été le pari qui a pas payé. Donc j'ai plutôt récompensé les paris qui n'ont pas payé plutôt que les paris qui ont payé.
Je veux dire, c'est tant pis pour eux. Il fallait aussi mieux travailler. Si Grosjean et Perez, entre autres, ont réussi à faire un arrêt, c'est aussi parce qu'ils ont travaillé durant le week-end pour que ça marche.
Oui, mais dès le départ, ils prennent ce pari-là. Alors que Alonso et Vettel, ils le prennent à mi-course.
Perez et Grosjean, c'est des stratégies qu'on a déjà vues, qu'ils ont l'habitude de prendre.
Et c'est une stratégie d'avant-course. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment la stratégie. Les mecs, ils partent, même plus pour Perez, parce que Perez, il part avec les pneus tendres. Il sait déjà la course qu'il va faire. Donc, voilà. Là où le coup de par exemple, c'est Dominique Kelly qui l'a dit. Il a dit, bah, voilà, il a fallu changer. Quand Hamilton rentre, on s'est posé la question et on s'est dit, on va tenter le coup. On va essayer d'aller au bout. On va jouer la victoire. Quand tu pars 15e, ta stratégie, c'est d'essayer de gagner des places. Donc, du coup, tu fais une stratégie plus endurante. C'était pas forcément gagnant pour Alonso et Vettel. Et j'ai plutôt récompensé le risque. Surtout venant de pilotes dont je craignais justement qu'ils ne veuillent pas de prendre risque. C'est ce que disait Alonso. Il disait on aurait très bien pu assurer le podium. Et puis on était content. Quoi qu'il arrive, Alonso, il était gagnant. Soit il était premier ex-aequo, soit il reprenait de l'avance sur Vettel. Donc à la limite, il avait même pas besoin d'aller chercher la victoire. Mais ils ont quand même cherché à mettre du panache et à essayer d'aller chercher la victoire.
Au détriment de l'efficacité.
C'est un pari. Non mais. Après, Bilo, s'il s'agit de à chaque fois mettre dans le top 10 le classement raisonnable de la fin de course juste, là, le top 10, c'est le top 10. Le classement juste, c'est le classement de la course. Et je remets pas en cause le classement de la course. Le podium de Grosjean et de Perez est totalement mérité. La cagade de Vettel et d'Alonso est totalement méritée. Ouais. Maintenant, le top 10, c'est pas seulement la performance, c'est pas seulement l'efficacité. C'est aussi d'autres choses. J'ai commencé mon top 10, ça a été Hamilton premier, Grosjean et Perez, c'était dans cet ordre-là. J'avais les 5 premiers dans le même ordre que la course. Et finalement, en y réfléchissant, je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment mettre en avant? Quelle est la stratégie qui m'a le plus surpris? La stratégie qui m'a le plus surpris, c'est l'audace de Vettel et d'Alonso.
Ouais, c'est bien. Ils font le spectacle, mais en même temps, ils sont pas là pour faire le spectacle et pour être audacieux. Ils sont là pour récolter le maximum de points. Donc voilà.
Oui, mais s'ils avaient gagné et qu'ils avaient fini premier et deuxième, on aurait crié, waouh, c'est super génial.
Ben oui. Ils l'ont pas fait. Voilà, oui. Ils n'ont pas terminé pour mes deuxièmes. Voilà.
Quand je vois en Italie les Italiens qui sont en train de gueuler après la Scuderia Ferrari en disant oui, mais cette stratégie elle était bizarre. Ils ont tenté. Ils n'auraient pas tenté de gagner la course. On leur aurait reproché à Ferrari d'avoir joué les épiciers en faisant deuxième, en se contentant de ça. Pour une fois cette saison, ils disent pour une fois on n'a pas été sur la défensive. Ça marche pas. Bon voilà, après ça arrive.
Justement, enchaînons sur Alonso qui a fini quatrième. Avec 934 points.
Et là, je comprends pas qu'Alonso soit devant Vettel. Ça, c'est un con. Non, mais je pense que c'est par rapport à la forme, enfin, à la performance.
Oui, oui, parce que c'est vrai qu'à, finalement.
Vettel part quand même de la pole.
Oui, quand même.
il perd 4 places là où Alonso en perd que 2. C'est vrai que la limite, je peux comprendre.
S'ils avaient fait le choix de changer de pneu, d'après toi, ils auraient fini où?
Alonso,
je te demande pas si c'est une erreur ou pas, parce que tu as répondu, tu dis c'est un pari et tout ça. Moi, je te demande, à ton avis, s'ils avaient fait le choix de changer de pneu, de mettre des pneus frais, deuxième ou troisième ou
deuxième. Après, c'est pas sûr. C'est aussi ce que dit Alonso après la course. Il dit, ça dépend aussi de ce que fait Vettel. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive pour nous, c'était un pari. Soit on faisait ce qu'on a fait. Donc on est sorti, on est resté en dehors des stands, on est resté sur la piste, on a fini, etc. Et on pouvait perdre puisqu'on savait très bien qu'à un moment donné, les pneus allaient se dégrader. Donc on pouvait perdre, même s'il savait pas quand. Et c'est vrai que ça se joue à quelques tours pour Alonso. Hein. Quelques tours, il est sur le podium.
À un moment donné,
Et en même temps, il disait, si nous on rentre et que derrière Vettel ne nous suit pas, il finit devant et on n'est pas sûr que lui ne tienne pas jusqu'au bout. À ce moment-là, on n'est pas sûr que lui ça tienne pas jusqu'au bout et que ce soit nous qui soyons marrons et qu'on termine troisième. Donc c'est le truc en fait, c'est que même si Vettel rentrait, le temps qu'Alonso fasse le tour du circuit et revienne, il aurait sans doute perdu du temps et il aurait fini derrière Vettel. Mmh. Donc à partir du moment donné où Hamilton rentre, chez Ferrari et chez Red Bull, ça se regarde en fait. C'est Red Bull et Ferrari qui se regardent en attendant de voir ce que fait l'autre.
Justement, moi j'ai envie de dire, c'est pas très intelligent comme pari parce que ils se sont ratés au 15e tour. Est-ce qu'ils espéraient vraiment que leurs pneus tiennent 55 tours?
Bah, je pense que oui.
Les pneus de Grosjean.
55 tours.
Les pneus de Grosjean ont pas duré forcément moins longtemps. Hein. Grosjean, il finit la course sur un bon rythme. Et je crois qu'il s'arrête au 21e tour et Alonso s'arrête au 17e. Donc il y a que 4 tours. Voilà. Alors après, c'est ça le truc.
Il faut aussi rappeler
que dans le week-end, les changements de température ont été très importants. Il a fait très chaud le dimanche. Il a fait un peu moins chaud le samedi. Il a fait limite froid, en tout cas très frais, le vendredi. Donc du coup, ils n'avaient pas vraiment de données sur les pneus. Donc c'était vraiment un pari au sens où ils allaient à l'aveugle. Alors après, on peut juger de se dire, est-ce qu'ils devaient prendre un risque? Moi, je pense sincèrement que leur intérêt, c'était pas de prendre de risques. Je trouve que ils ont appliqué une mauvaise stratégie et que finalement, ils ont payé des pots cassés et que c'est très mérité. Pour ça, je dis que les places de Grosjean et Pérez sont totalement méritées. Voilà. Maintenant, ils ont pris un pari et alors j'espère que ça va pas non plus les encourager à ne plus prendre de paris. Parce que voilà. Mais en tout cas, ils ont pris un pari. Ils ont peut-être pris un pari un peu inconséquent, ça c'est certain. Parce que c'est vrai que la fenêtre de tour est quand même relativement énorme. Mais après, ils n'avaient pas forcément énormément de données. Et c'est ce qui rend aussi les courses incertaines et ce qui rend les courses plaisantes.
Et sinon, ouais, sur le...
pari dans...
Oui, Pilo.
Oui, un pari dans le but de quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner en faisant un pari?
De gagner la course.
Ils ne pouvaient pas. Il y avait 55 tours à faire en pneus durs. Est-ce qu'ils... Franchement, c'était impensable.
Tu dis que c'était impensable, mine de rien, même si on sait que c'est la Lotus et compagnie. Grosjean, il a fait grosso modo, je crois que c'est 51 tours avec les pneus. Il a fait 49 tours, et je crois que c'est Alonso qui fait 51 tours. Grosjean, il a fait 49 tours, et ça a plutôt bien tenu. Alors après,
il y a d'autres critères. On est au Canada, 2 tours, ça peut être rien. Faut pas oublier que, par exemple, le Canada, c'est une des courses où il y a 75% de chances qu'il y ait une safety car. Oui. Ça, ils le prennent en compte, hein.
Ouais, enfin, c'est un, voilà.
Ah, mais oui, c'est
misé sur, si.
Mais oui, mais quand,
mais le pari, c'est ça, c'est misé, c'est ce que dit Ferrari et ce que dit Red Bull. Il dit, c'est facile de regarder quand on connaît le résultat de la course.
Non.
Mais sur le moment, quand on cherche la stratégie, pour viser la victoire, c'est la stratégie qui nous semble idéale. Parce qu'ils savent qu'en rentrant au stand, la victoire s'est terminée. Et eux, ce qu'ils visaient, que ce soit Red Bull ou Ferrari, ils visaient la victoire. Donc à partir de ce moment-là, c'était la stratégie à prendre. Et après, ça a sa portion de risque. Les mecs, ils ont certainement serré les fesses pendant les 15 derniers tours en disant pourvu que ça tienne. Et après, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir le changement de fusil d'épaule entre Alonso et Vettel. C'est-à-dire qu'on en a un. Il y a encore un deuxième pari. C'est-à-dire que Vettel se dit, je vais essayer de sauver les meubles. Et Alonso se dit, je vais essayer de continuer le plus loin possible, voir où ça me mène. Voilà, c'est un pari. Un pari, il n'y a pas de...
Il suffit qu'il y ait une safety car qui roule un peu plus lentement sur 2-3 tours et ça peut tout changer.
Mais voilà, après on mise sur des choses qui peuvent potentiellement arriver. C'est un peu faible quand même de miser sur la safety car.
Mais c'est pari.
Sur une course comme le Canada, c'est comme par exemple sur Monaco, tu peux jouer la safety car.
70% de safety car,
comme jouer par exemple la pluie à Malaisie. Bien sûr, ça n'arrive pas tout le temps, mais il y a une telle proportion que ça serait idiot de ne pas, voilà.
Mais
non, et puis sincèrement, il y a le changement de conditions de piste qui fait que ils savent pas vraiment où ils vont. Alors après, je suis bien d'accord je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est une stratégie super périlleuse et où ils avaient plus à y perdre. Mais faut regarder, leur objectif c'était quoi? C'était d'y gagner. La raison du pari, elle est là. Ils sont pas en train de capitaliser sur est-ce qu'on peut le faire. Ils sont en train de capitaliser sur le fait, c'est que quoi qu'il arrive, si on ne le fait pas, on ne gagnera pas. Donc ils disent autant le faire. À la limite, on perdra pas grand-chose, on aura tenté, autant le faire. Si ça peut payer, autant le faire. Et pour moi, c'est de ce côté-là où ils ont eu raison de le faire. C'est que ça pouvait payer.
Sinon, sur le reste de la course d'Alonso, parce que c'est pas que ses 15 derniers tours quand même sa course.
Il fait une très très belle. Très belle partie de course, première partie de course, puisqu'il s'arrête après et il repart devant les deux.
Il s'est fait dépasser par Hamilton.
Allez, on va passer au podium. À la troisième place, il a marqué 1010 points. Je l'ai mis troisième. Bilo l'a mis troisième. Dino, tu l'as mis cinquième. C'est Sergio Pérez.
Ah, Speedy Gonzalez,
tu fais bien le Mexicain, Bilo.
Ouais. Pérez, très efficace.
Très belle course. Bon, voilà. Stratégie, comme tu l'as dit, qu'on connaît finalement maintenant avec Sauber.
C'est une course à la Pérez.
Oui,
c'est
une
course à la Pérez.
Ouais, mais ça a marché.
Ah, mais c'est pas une critique que je fais. Hein. Au contraire, j'aime bien ce genre de course.
Oui.
C'est génial, quoi. Tu le vois, 15e au qualif, tu te dis, ouais, il va peut-être marquer quelques points. Ah, pour le podium, quoi. C'est formidable, parce que ce qu'il aide, en fait, c'est le fait que Di Resta joue les bouchons. Du coup, lui, il perd pas de temps par rapport aux autres. Et lorsque les autres pilotes s'arrêtent au stand, ben, il y a plus que Raikkonen, Kobayashi et lui. Et lui, comme il dure plus longtemps, ben, il s'arrête plus tard, il repart devant, et en plus, il dépasse, et voilà. Il est dans le coup.
En plus, il s'est offert quelques petits moments. C'est pas lui, à un moment donné, qui est pris à trois,
voitures, avec Massa et Rosberg.
Au mur du Québec. Voilà, tous les deux, il leur a fait la nique. Allez, poussez-vous, je passe. Salut les mecs.
Ouais, c'est Massa qui se défendait face à Rosberg et Pérez. Ils étaient à trois de front et Rosberg, il s'est fait avoir. Pérez est passé devant.
C'est une très belle course de Pérez.
Ah ouais.
Franchement, ça serait pas étonnant quand même qu'il gagne cette année. Il y a la marche pour, on va dire.
Oui. Ah bah, s'il y a deux pilotes où ça serait pas immérité au vu de leur performance, c'est Grosjean et Pérez.
Ah oui, voilà.
S'il devait y en avoir deux en dehors des pilotes classiques, il manque qui là? Il manque Raikkonen, il manque Schumacher.
Raikkonen, Schumacher. Je pense qu'on peut mettre Massa.
On peut aussi mettre Massa. Pas par accident, on sait jamais.
On peut mettre Massa.
Si Alonso n'est pas, si Alonso se crache, oui.
Ouais.
Et puis, en Allemagne, j'y crois.
Puis Pérez et Grosjean, ouais. Ils sont facilement.
Mais Pérez et Grosjean, pour moi, c'est les deux prochains vainqueurs de la discipline.
Très possible. Ça... En plus, c'est son objectif, hein. Il a dit Pérez, il veut gagner cette année.
Ah, ouais. Ça risque d'arriver.
Et Grosjean a dit, maintenant, on lui a posé la question, et il a dit, maintenant,
c'est bon.
J'ai fait troisième, je fais deuxième, maintenant, la prochaine étape, c'est premier.
C'est premier. Quelque chose à rajouter sur Pérez ou?
Non, j'ai trouvé grosso modo que les Sauber avaient montré une belle forme durant les essais libres et que les qualifs étaient vraiment décevantes.
Oui.
Mais voilà. Peut-être qu'ils ont plus travaillé. Ils ont plus travaillé pendant les essais et voilà quoi. De toute façon, Pérez, c'est comme d'habitude, hein. C'est la gestion des pneus et comme ça marche, voilà.
Tant qu'au final ça aboutit à ça, j'ai envie de dire, ça va quoi. Il y a pire.
Ah oui.
Voilà.
Mais c'est ça, c'est typiquement le type d'écurie Sauber qui a compris que il pouvait pas jouer la pole. Et qui travaille beaucoup pour la course. C'est ce qui rend les courses aussi intéressantes, c'est qu'on en a qui cherchent la performance et qui jouent la qualif. Mais du coup, en course, comme ils n'ont pas forcément les mêmes pneus, etc., ils sont toujours un peu, ils sont jamais à l'abri des mecs qui partent 15e mais qui ont bétonné la course et qui vont le faire une super course, quoi. Donc c'est ce qui rend les courses intéressantes, ce qui fait le mélange que chacun a un peu sa chance, tout en étant sur deux lignes de conduite finalement assez différentes.
À la deuxième place. C'est Romain Grosjean, il a marqué 1219 points.
Tu remarqueras, j'ai dit que la fanbase de Grosjean n'est pas si forte que ça, finalement. J'aurais été Kimi Raikkonen qui aurait été deuxième, il aurait gagné Kimi.
Il aurait été
numéro 1. Là, c'est Grosjean, il reste deuxième.
Ouais. À 2 secondes et demie, on était à 2 secondes et demie de chanter la Marseillaise. C'est vrai que c'est fort.
Bah, c'est vrai qu'il revenait fort. Hein. Bon, après... il aurait fallu 3-4 tours de plus quand même.
Mais la course en fait 70.
Voilà. Alors, je pense pas qu'il aurait doublé Hamilton, parce que Hamilton avait quand même des pneus plus frais. Voilà.
Bah, c'est-à-dire que là, en plus, vraiment, Alonso, Vettel, mais là, Hamilton, c'est-à-dire que Grosjean volait et Hamilton était sur un rafale, donc voilà. Oui. Mais là encore, très belle course. C'est bien, on peut dire, voilà. On n'aura plus à dire, ça fait 14 ans qu'il y a eu un podium. Non, ça fait un mois.
Mais qu'est-ce que c'est dommage. Parce que quand tu vois quand même ses résultats cette saison, c'est 2 podiums et une arrivée dans les points. Et derrière, c'est des abandons. Et tu te dis, à chaque fois qu'il a abandonné, il pouvait faire un bon résultat.
À chaque fois qu'il abandonne,
il abandonne parce qu'il est dans les 5 ou 6 premiers, quoi.
Ah, c'est clair.
Là, tu te dis vraiment, c'est dommage. Là, quand tu le vois qu'il a 2 points de Raikkonen, tu te dis, mais avec le début de saison qu'il fait, ce garçon, mais il devrait être 20-25 points devant Raikkonen aujourd'hui. Enfin, c'est juste, voilà, c'est des petites erreurs qui lui coûtent super cher.
Bon, c'est vrai que ça pourrait coûter cher à la fin, c'est dommage, parce que il est là, quoi. Dans le classement, il est pas loin du premier, c'est intéressant. Et puis, il fait une course très propre. Toujours performant, hein. Il a eu beau être coincé derrière Diresta et Rosberg, il a trouvé quand même le moyen d'être dans le coup pour le podium.
À noter que Franck Montagny,
oui,
dans Dimanche F1,
il a déclaré. Oui, il a dit qu'il pouvait viser le
Romain Grosjean, il le voyait prétendre au titre.
Oui, oui.
C'est culotté quand même.
C'est culotté.
Mais honnêtement, il y a eu Hamilton, mais il y a beaucoup de monde qui dit que actuellement, la Lotus, c'est la meilleure voiture.
C'est le meilleur compromis.
Voilà. Ouais. En tout cas, c'est le meilleur compromis. C'est une voiture, beaucoup de gens disent, qu'elle marche très bien sur des hautes températures. C'est chanceux.
On va y arriver.
On est mi-juin, on arrive quand même sur les grands prix plutôt chauds, hein.
Oui, enfin, rappelle-toi le mois de juillet de l'an dernier.
Vous savez, il faut bien vous rendre compte d'un truc, hein. C'est pas parce qu'il pleut une année qu'il va pleuvoir pendant 5 ans. Vous avez remarqué, cette semaine, il n'a pas plu. Enfin, il n'a pas plu pendant la course au Canada. Voilà, on peut imaginer des grands prix relativement chauds. Écoute, pourquoi pas, s'ils réussissent véritablement à améliorer leur qualification qui partent de plus haut, et que
les qualifications et maintenir le
développement. Voilà, maintenir, oui.
Si ces deux trucs-là, s'ils améliorent et qu'ils arrivent à maintenir le développement, sincèrement, s'ils ne gagnent pas 2-3 Grands Prix cette saison, il y a quelque chose, quoi.
Et si c'est pas pour le Grand Prix, le championnat pilote, en tout cas pour le championnat constructeur, il peut y avoir un truc.
Ouais, mais en plus, là, ils sont pas très loin. Enfin, ils sont
4e. Ouais, ils sont
3e.
Ils
sont 3e, tu vois.
Si McLaren continue à n'avoir qu'un seul pilote, et si Red Bull fait comme depuis le début de saison, c'est-à-dire une course ils sont là, une course ils sont pas là.
Tu me diras, chez Lotus ils sont pas forcément plus nombreux que chez McLaren.
Raikkonen est quand même toujours dans les points.
Oui, voilà.
Ça fait quand même 4 courses de suite où il est devant Button.
Oui, d'accord, il est devant Button, mais
Button pour l'instant c'est.
Il est un peu loin derrière Grosjean.
Oui, il a fait 2 courses moyennes.
Il rapporte des points.
C'est le début du tiré, je dis.
Avant ça, il avait fait 2 podiums, s'il te plaît. Voilà.
Il a fait 1 podium.
2. Bahreïn-Espagne.
Espagne, il est monté sur le podium. Ah, il est 3e. Ah oui, il est 3e, oui. Je sais pas, j'ai vu que le 2e.
Oui.
Désolé. Bon. C'est un effet d'optique.
Bien sûr. Ouais, la Lotus, c'est quand même, depuis le début de saison, c'est la seule voiture, avec la McLaren, quand même, on peut dire, qui est performante sur tous les grands prix. Elle est très bonne quand il fait chaud. Faut pas oublier que quand il fait frais, elle est pas forcément larguée. En Chine, ils étaient quand même dans le coup largement. C'est une voiture. Effectivement, il faudra maintenir le développement. Mais j'ai envie de dire par rapport au qualif, c'est vrai que ce serait mieux s'ils s'amélioraient en qualif. Mais j'ai envie de dire, ils ont même pas besoin de s'améliorer en qualif, étant donné de.
On l'a vu ce week-end.
Voilà. Mais pareil sur d'autres courses. À Bahreïn, par exemple, ils avaient pas besoin d'être devant. Hein. Et voilà.
Si c'est améliorer les qualifs pour sacrifier les qualités intrinsèques de la Lotus en course,
oui.
Est-ce que c'est vraiment faire une bonne chose? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mercedes. Mercedes, peut-être qu'ils ont effectivement trouvé la clé pour les courses pour maintenir les pneus, mais ça se fait au dépens de la performance en qualification. Donc si c'est pour améliorer la qualification au dépens de la gestion des pneus en course, est-ce que vraiment ils vont être gagnants? Alors que là, on voit que Grosjean, il part 7e, il termine 2e grâce à une bonne stratégie et grâce aux qualités de la voiture en course. Donc parfois, il faut savoir aussi partir de loin.
Disons que peut-être pas faire des pôles, mais si partait 3, 4 ou 5, voilà.
Mais ça, ils l'ont montré.
Mais ils sont capables de le faire, ils l'ont déjà montré.
Je trouve que Lotus se met un peu la pression pour pas grand chose. Enfin, Grosjean a montré qu'il pouvait être dans le top 3. Il y a quand même, je trouve qu'en qualif, il n'y a pas non plus un énorme problème en qualif. Voilà, c'est que là, peut-être que les conditions leur étaient pas super favorables. Maintenant, je pense que sur des circuits plus classiques et les circuits estivaux, s'il fait les températures idéales, ils seront mieux qualifiés, ils feront des très belles courses, ils feront des podiums régulièrement.
Tu dis les conditions leur étaient pas favorables. Mais dis donc, quand c'est pas favorable, il termine 2 secondes et demie du vainqueur.
Non, je parle en qualif. Ah. En qualif, c'est pas les conditions optimales pour la.
Ah, tout à fait.
Et la Lotus, de toute façon, même avec la longue ligne droite, c'est pas forcément le type de circuit qu'ils adorent, les Lotus. Ils aiment bien les circuits qui sont très tournants, même si là, il y a une partie tournant, il y a quand même une partie de ligne droite qui peut potentiellement un peu les pénaliser.
En plus,
on a bien senti que c'était plutôt les conditions du dimanche où il faisait 35 voire 40 degrés, plutôt que les conditions de samedi où il faisait 30 degrés. C'est-à-dire, quand il fait 30 degrés, ils sont moins scintillants. Que quand il fait 35 degrés, là, ça va beaucoup mieux.
Messieurs, on arrive au premier.
On peut l'oublier, je te dis.
Ah.
Là, il y a des gens qui vont partir.
Oui, hein. Fab, il va pas être content.
Ah, Fab peut rester, oui.
Il a marqué 1680 points. On l'a tous les trois mis premier, et c'est mérité. C'est Lewis Hamilton. Enfin, pour lui.
C'est pleinement bien. C'est...
Mais Fab, on l'a mis quand même tous les trois premiers, hein. C'est...
En même temps, qui l'aime? Parce que quand je vois le... Ah oui, il y en a qui l'ont pas mis premier. Oui, il y en a qui ont mis Perez premier.
C'est qui?
Je sais pas, non, mais c'est des gens sur le forum, là, qui ont mis Perez
premier. Voilà. Super week-end, superbe course. Bon, c'est vrai qu'avec le jeu des ravitaillements, parfois, il était pas premier, hein, mais c'est ce qui a rendu en plus, je trouve, sa course encore plus belle, c'est que il est allé doubler quand même. Bon, il a fait deux trois dépassements, oui. Mais ce qu'il fallait.
J'ai envie de dire, avec le recul, son dépassement sur Alonso lui a peut-être assuré la victoire, parce que s'il n'avait pas dépassé Alonso. C'est Grosjean, je pense, parce qu'il aurait été
il
bloqué.
Il perd un peu de temps.
Voilà, il perd.
D'ailleurs, tiens, comme tu parles de dépassement sur Alonso, saluons quand même Alonso qui s'est fait dépasser à chaque fois. Il a un peu résisté, mais à chaque fois, il s'est quand même laissé dépasser de façon plutôt propre.
Oui.
D'ailleurs, il avait dit après, mon ingénieur me disait, vas-y, défends-toi. Il lui disait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai plus de
temps. Voilà, quand il se fait prendre 4 secondes de tour.
Il ne peut pas faire grand-chose. Donc, je crois que c'est sur Grosjean. À un moment donné, il se met sur le côté, il laisse passer Grosjean parce que, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il se défende? Il a plus de pneus. Lui, son but, c'est de se laisser couler jusqu'à l'arrivée en espérant.
En perdant le moins de temps.
Pas trop. Voilà. Je crois que là où c'est peut-être le plus défendu, c'est sur Rosberg.
Ouais, puis c'est son poussin, Grosjean. C'est son fils. Voilà, Hamilton.
Ouais.
Et encore une fois, mais qu'est-ce qu'il fout quoi chez McLaren, c'est
ah oui,
vrai,
parce qu'en plus il a pas été épargné.
Oui, ils font pas des arrêts catastrophiques, non. Mais je crois qu'Hamilton.
Il y a eu quand même une grosse frayeur
sur le bilan.
Deux arrêts.
Sur le bilan fait sur Fan F1, je crois qu'ils font le huitième meilleur temps. Quand on connaît McLaren et qu'on sait que McLaren est capable d'être très rapide au stand cette année, McLaren, c'est pas ça du tout. Et même Button, il est pas terrible. Hein. Button, je crois qu'il est cinquième meilleur temps dans les stands. Voilà, c'est pas terrible du tout. Et Hamilton, bah voilà, encore un problème de pneus qui pourrit pas sa course. C'est ça le truc, moi j'ai bien aimé avec la course d'Hamilton, c'est qu'on a senti, oui il a dû aller la chercher, mais en même temps on sent énormément de contrôle derrière, de mec à son plan de course, et c'est peut-être ça qui fait qu'il gagne en ce moment, enfin qu'il gagne la course, ouais. Et quand Calif il s'en sort bien, c'est que il calcule pas, c'est peut-être ça le secret des Pirelli, ne pas calculer, il est pas en train de faire des paris et compagnie, il fait sa course, il fait ce qu'il a à faire avec ses pneus et compagnie, il gère pas trop, et voilà, et... Finalement, bah, ça passe, quoi. C'est tout en contrôle.
Et donc, je l'ai dit en début d'émission, c'est du 7 sur 7, hein, pour l'instant.
On avait dit, j'ai dit qu'on arrêtait de parler de DSK. Tu peux pas t'empêcher de forcément faire une allusion à DSK.
Alors, mais peut-être que dans deux semaines, ça sera du 7 à 8.
Ah oui, ouh.
En plus, comme c'est français, voilà, quoi.
Ah, parce que c'est vrai que bon, il y a quand même un moment, statistiquement, il y a de plus en plus de chances qu'il y ait une deuxième victoire.
T'en as deux derrière, quand même, Alonso, Vettel. Que dans le déroulement de la course, tu disais, c'est soit Hamilton gagne, soit c'est bon, la série elle est morte.
Oui, voilà.
Et finalement, on est arrivé avec trois mecs qui auraient pu gagner.
Oui. Statistiquement, c'est possible, mais il y a encore de la place pour un huitième, voire un.
Ah bah largement, il y a largement la place. Les deux Lotus déjà.
Vas-y, hein, les deux Lotus, Perez.
Perez, ouais, voilà. Et
Schumacher. Massa.
Schumacher il va abandonner 17 fois, donc ça va pas être possible de chercher.
Non, mais sincèrement, on en a pas parlé, Schumacher, mais c'est terrible.
C'est incroyable.
Alors, c'est vrai que, au-delà, sans même considérer ses performances, c'est encore plus fort parce que il en fait des bonnes, enfin, des moyennes bonnes, mais voilà, il est là, mais ça rend le truc encore plus terrible, mais
c'est chaud.
Il y a une colonie de chats dans sa voiture. C'est un chat noir qu'il a.
Surtout que ce qui est très drôle, c'est Gus Gus qui a noté ça. Il a retrouvé une vidéo où Schumacher présente le DRS en début 2011. Et il dit, bon, là, on a une nouvelle innovation, le DRS. Puis il dit, bon, alors, on l'ouvre. Et après, au freinage, ça se ferme tout seul. C'est impossible que
mais
ça
se bloque. Avez le souvenir, vous, d'un DRS bloqué?
Il me semble que c'est déjà arrivé chez Mercedes et chez Schumacher.
Parce que j'ai le souvenir d'un Alonso qui avait un souci de DRS, mais c'était...
Alonso en Chine l'année dernière.
Chine. Il était pas bloqué, c'est que il avait une activation.
Il s'activait avec un décalage.
Il est resté ouvert quelques secondes après l'accélération.
Mais un blocage, en tout cas en course. Ouais. Je crois que c'est bien la première fois avec cette scène, mais ubuesque.
Les mécanos.
Avec, tu sais, c'est cette sensation qu'on a tous eu. On a tous une fois dans notre vie. Il a fallu qu'on débloque un truc, qu'on ouvre un truc. Et tu sais, cette sensation où tu forces. Et en même temps, tu forces pas à fond, parce que tu dis, putain, si je force à fond, et tout pète.
Oui.
Et c'était ça, c'est, tu les sentais, tu disais, et tu les voyais dans l'écran, tu disais, mon dieu, si tape fort, il y a plus d'aileron, il y a plus d'aileron, parce qu'en plus.
C'était un petit moment NASCAR, tu vois, c'est le moment où tu te dis, voilà, les mecs, t'attends presque à ce qu'il y ait un mec qui sorte le gros manier en tapant dessus, en disant, bon allez, tu vas rentrer!
Et on voit d'ailleurs qu'un aileron, c'est, je vais pas dire souple, mais relativement souple.
En même temps, c'est pas un gringalet qui essaye de le remettre.
Non.
Mais alors, ça, c'est une bonne question. Est-ce que Schumacher était obligé d'abandonner? Parce qu'à la limite, il aurait pu continuer.
Techniquement, le truc, c'est qu'il n'a pas le droit d'avoir le DRS activé en dehors de la zone au moment où c'est autorisé. Parce qu'il y a un drapeau noir, en effet.
Non, un drapeau orange et noir. Pour signifier.
Voir avec un rond.
Et à ce moment-là, c'est vrai que si tu résous pas le problème, l'abandon est immédiat, quoi.
C'est vrai qu'il restait 20 tours. Peut-être, est-ce que s'il avait resté, je sais pas, 5 tours, par exemple, il se serait pas dit, bon, tant pis, on continue, on va se prendre une pénalité, mais voilà, est-ce qu'ils auraient continué, par exemple? Ça, c'est une bonne question.
Au pire, il demandait à Bruno Senna, il aurait aidé, il aurait fermé.
Je pense que c'était trop dangereux.
Oui, de toute façon.
Non, mais avec son trophée, il aurait mis le trophée sur les bons.
C'est surtout ça la question. C'est est-ce qu'il a abandonné parce que c'était dangereux, ou est-ce qu'il a abandonné parce que réglementairement, effectivement, il n'a pas le droit d'utiliser le DRS? Parce que finalement, peut-être qu'il pouvait très bien finir en s'adaptant. Il a juste.
En rajoutant le fait, comme j'ai dit, qu'il est resté plus de 20 tours. Il restait quand même un.
Il fait attention au freinage et compagnie.
On allait passer au classement.
Oui.
J'allais juste dire une chose que j'ai. Donc c'est le 7e vainqueur différent en 7 Grands Prix. Et si on regarde bien les 6 premiers du Grand Prix, c'est 6 marques différentes, ce qui prouve quand même la diversité cette saison.
Ouais.
J'ai fait des petites recherches aussi, et c'est la première fois que le podium de F1 est constitué de entièrement de pilotes issus du GP2.
Ah ouais.
C'est la première fois.
C'est tu vois, alors franchement, j'aurais pensé que c'était déjà arrivé.
Ce
que tu dis, avec un Hamilton, Rosberg.
C'est arrivé plusieurs fois avec deux pilotes.
Avec deux, voilà. Et trois, voilà.
Voilà. 2006, il n'y avait que Rosberg et il n'a pas fait de podium.
Ouais.
2007, il n'y avait que Hamilton qui pouvait prétendre un bon résultat. 2008, il y a Hamilton, Rosberg et c'est tout. Parce que il n'y a jamais eu Hamilton, Kovalainen, Rosberg ensemble. Mm. Et pareil, de toute façon, quand on regarde 2009, c'est Brown Red Bull et aucun de ces quatre pilotes n'a fait de podium. À partir de 2010, que ce soit chez Red Bull ou chez Ferrari chez McLaren, il n'y avait que Hamilton qui pouvait faire des podiums avec l'intermède Petrov ou Rosberg, mais c'est jamais les deux en même temps.
C'est intéressant. Ouais.
Donc passons au classement. Au classement du SAV, devinez qui est en tête.
C'est Alonso,
95 points devant Hamilton. 86 points et Raikkonen 75, Vettel est à 73. Donc un petit écart. Sinon chez les constructeurs, c'est Red Bull qui est devant, 142 points devant McLaren 135, Lotus 129 et Ferrari 108.
Oh, c'est serré.
C'est serré. Dans l'autre classement, ça s'est resserré aussi dans l'autre classement puisque Hamilton est à 88 points, Alonso 86, Vettel 85. D'ailleurs, il y en a certains qui disent déjà, ça va se jouer entre les trois. Ouh là là.
Non, ça se jouera pas entre les trois.
À noter que les 5 premiers sont en 25 points, puisque Rosberg est à 67 points, et Raikkonen est à 55, Grosjean 53. Et là, il y a un petit décrochage, mais voilà, c'est franchement, vu les circonstances, ça peut encore beaucoup bouger. Chez les constructeurs, Red Bull 164, McLaren 133, Lotus 108, Ferrari 97.
Très bien.
Messieurs, nous allons évoquer le fait marquant. Il y a 2 semaines, nous vous demandions quel était le fait marquant du Grand Prix de Monaco. Vous avez été 112 à voter. Merci. De même, comme d'habitude, merci à tous ceux qui ont donné leur top 10. Grosjean, monsieur 50% accident, 20 votes, 17,86%.
Ouais, c'est bien.
Massa de retour aux affaires, 21 votes, 18,75%. Et encore une victoire pour moi, puisque le meilleur tour en qualif de Schumacher, 63,39%. Monsieur 50% accident, c'était toi, Dino?
Ouais. Mm-hmm. Je vais dire, Grosjean et Pérez, invités surprise du podium.
Bien sûr, le mec, il en prend deux à la fois, quoi. Ça va, là.
Mais c'est un fait marquant. Le fait marquant, c'est qu'on a deux invités surprise sur le podium.
Voilà, avec Grosjean, là, tu vas avoir des voix, là.
Ah, c'est sûr qu'en même temps, voilà, je flatte à la fois ceux qui veulent dire Grosjean, ceux qui veulent dire Pérez. C'est vrai que je vous barre un peu le chemin. Mais il n'y a aucune règle explicite qui dit que je ne dois prendre qu'un.
Ah non, il n'y a aucune règle.
En plus, tu nous laisses Hamilton, quoi. Les mecs vont pas vouloir voter pour lui.
Oui, c'est... je t'avouerai que je me suis dit, non, ne prends pas Hamilton. Ouais. Ça paye pas. Donc ensuite, c'est Bilot.
Bah, je vais au moins m'assurer le vote de Fab. Oh. Hamilton, Hamilton, septième vainqueur en cette course.
Ah, on verra avec Fab, mais je suis pas sûr que Fab il vote pour ça. Parce qu'il n'y a pas le mot magnifique dans la phrase.
Alors, le magnifique Hamilton.
Pour un magnifique septième vainqueur.
Non, c'est le magnifique Hamilton.
Eh ben écoute, je vais pas. Ah, merde. Là, forcément, c'est plus compliqué. Je vais essayer de récupérer le vote de Ben et je vais dire Schumacher, le méga poissard.
Oh merde, c'est vrai, j'avais pas pensé.
C'est pas mal,
ça va être serré, ça va être serré.
Tu récupères la voix de Fab, moi je récupère la voix de Ben, oh voilà.
Et moi je récupère
récupère le reste.
Non, je vais faire 98,7% et vous ferez le reste.
Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix du Canada 2012? Vous avez le choix entre Grosjean et Perez, invité surprise du podium, Hamilton, septième vainqueur en sept courses, ou bien Schumacher, le méga poissard. Pour voter, n'oubliez pas, c'est tout simplement sur l'article hein, consacré au SAV de la F1 à l'émission que vous êtes déjà en train d'écouter. Mais si vous venez d'iTunes, n'oubliez pas, hein, c'est sur le site fan-f1.com. J'ai bien tout dit?
Oui.
Messieurs, c'est l'heure du concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, le concours Top Position, rappelez-vous, il y a 15 jours, c'était la question de Steve, qui avait remporté la mise, avec une belle question, je dois dire, qui est la suivante. La voiture de sécurité fit sa première apparition en Formule 1 lors d'un Grand Prix du Canada, mais de quelle voiture s'agissait-il et qui était au volant? La réponse, Shinji, est-ce que tu la connais?
Je me souviens que j'avais vu le modèle, c'était une Ford, je crois.
Eh ben non. C'était une Porsche 914, alors plus précisément c'était la Porsche 914-6 avec un énorme 110 chevaux de 2 litres 6 et dérivé de la 911T de 1969.
Ah.
Et elle était conduite par un ancien pilote qui s'appelait Epivitz. Et donc ça s'est passé en 73 au Grand Prix du Canada. Alors à noter qu'il y a une petite subtilité, c'est que en fait la voiture de sécurité n'a été instaurée je crois qu'en 93.
En F1.
Voilà. Et là en F1 voilà. Et en fait là c'était au Canada parce que tout simplement dans les sports américains du Nord, la safety car on l'a toujours eu.
C'est aussi banal qu'un drapeau jaune quoi.
Mais la voiture de sécurité, la safety car telle qu'on la connaît en Formule 1 fait son introduction en 73, en 93 je crois. Et à l'époque c'est une Fiat Tempra.
Ah, c'est peut-être ça, je confonds Ford, ouais. Fiat, ça doit être ça, j'avais lu.
C'est bien, tu confonds Ford et Fiat maintenant.
Bah quoi, il y a 4 lettres, ça commence par F, c'est 2 voitures, c'est bon.
De toute façon, il n'y a pas un lien via... Ah bah non,
c'est pas pareil.
Ouais, c'est une connerie.
Voilà.
Et donc, alors, Shinji, je vais avoir besoin de ton expertise. Là. Est-ce que tu considères que quelqu'un qui aurait répondu la Fiat Tempra de 93, que tu considères que c'est une bonne ou une mauvaise réponse?
Ouais, on peut l'accepter comme bonne, puisque après tout, c'était la première en F1.
Bah non. Et la Dino, il a donné l'indice 1973, c'est pas la Fiat.
Est-ce que tu l'avais donné lorsqu'on a posé la question?
La oui. Première, oui.
Oui.
Ah oui.
Donc on compte pas.
Ah bah oui, là on compte pas. Si t'avais dit 73, bon.
Non, c'est là, tu as le choix, on s'excuse auprès de Germain.
Voilà, un de moins déjà, hop.
Et donc, tu l'auras compris, hein, Bilot a participé, il nous reste 2 réponses. Et dans l'une de ces 2 réponses, il y a celle de Bilot, donc Bilot ne pourra pas t'aider. Et je sais que tu es triste, Shinji, parce que tu aimes bien quand l'invité t'aide. Oui. Et donc, Shinji, je vais te donner 2 questions. Bilot, tu te tais. Et donc, Shinji, première question. Quel chanteur était présent sur le muret des stands de Stewart Grand Prix lors de la victoire de celle-ci au Grand Prix d'Europe 1999? Et deuxième question. Quelle est la longueur de la piste du circuit de Valencia? Il y a un petit piège. Shinji, quel
attends,
est ton choix?
Attends, je réfléchis.
Tu as le choix, si tu veux, maintenant tu as des jokers, tu peux demander l'avis de l'audience,
oui.
Tu peux faire appel à un ami,
à Bilot,
tu peux faire le 50-50.
Tu peux faire appel à Bilot aussi.
Donc, oui. Rappelle-moi la première, c'était un chanteur avec Stewart.
Quel chanteur était présent sur le muret des stands de Stewart Grand Prix lors de la victoire de celle-ci au Grand Prix d'Europe 1999?
Je vais prendre la deuxième, parce que si c'est le piège que je prends...
Donc c'est sur le circuit de Valencia.
Ouais.
Enfoiré ! Espèce d'enfoiré ! Putain, c'est pas vrai ! En plus, quand j'ai vu la deuxième question, je me suis dit, non, je peux pas perdre. Passe face à cette question. Oh non.
Et donc,
c'est pas vrai.
T'as pas compris le truc, c'est le piège. C'est ça qui...
Ah non, Dino ! J'allais dire à Dino, putain, mais dis pas qu'il y a un piège dans la deuxième question, ça va inciter Shinji à la prendre. Oh non.
Et donc... Donc, bravo Adelin, tu as gagné un petit papier à tourneau pour le tirage au sort de fin de saison. Bravo pour cette brillante question qui a battu la néanmoins brillante question de Bilo. Hein,
c'est qui d'ailleurs fait. C'était qui le
Si je te dis qu'il a chanté la musique de ton film préféré, Shinji, enfin d'un de tes films préférés.
Attends, Metropolis, non. Star Wars, non.
Ah, t'étais pas là. Star Wars.
C'est un film que t'aimes beaucoup parce que c'est un film qui s'adresse aux enfants, mais que tu trouves qu'il s'adresse aussi aux adultes.
Ah, Elton John.
Non,
pas Elton John.
Quand tu penses à Star Wars.
Attends, j'ai un doute. Est-ce que c'est lui qui fait la musique du Roi Lion?
Bah oui.
C'est pas...
Ah oui, donc là, je me suis gouré de film alors.
Non, c'est pas Roi Lion, c'est autre chose. C'est un autre dessin animé.
C'est pas lui qui a fait Aladdin ou Entre-Dangers. Enfin, c'était Phil Collins, je dis.
Il a fait Tarzan.
Ah, il a fait Tarzan.
Il a fait Tarzan. Oui, voilà, Tarzan.
Mais non.
Donc on me la recommence, je dis. Il a fait un film que tu n'aimes pas du tout. Et qui raconte l'histoire d'un homme
sain. J'en ai rien à foutre, moi ce que je préfère, c'est les lions.
Donc voilà, donc je rappelle la question d'Adelin qui est la suivante. Quelle est la longueur de la piste du circuit de Valencia? Pour répondre, vous avez une quinzaine de jours, hein, jusqu'au mardi après le Grand Prix d'Europe. Donc pour répondre, c'est contact@savf1.fr. Vous pensez à nous envoyer une question sur le Grand Prix suivant, qui sera le Grand Prix de Grande-Bretagne, et à nous joindre la question qui va avec, et puis c'est à peu près tout.
Oh, je suis dégoûté.
Il avait demandé quoi, Germain?
Germain, c'était quel plat à base de riz rond d'origine valencienne tire son nom de la poêle qui sert à la cuisine?
J'ai bien fait de Valencia.
Putain, t'aurais pas dit qu'il y avait un piège, j'avais gagné, punaise.
En même temps, le piège ne rend pas la question plus dure.
C'est quoi le piège en fait?
Le piège, c'est le circuit de Valencia. Genre, il manque un mot. Donc.
Ah, c'est se trouve, il a pas compris le piège.
Voilà. Donc, en fait, c'est une question dure.
Il y a une subtilité, on va dire.
J'avais le doigt appuyé sur le truc. J'étais prêt à lancer.
Voilà. Ouais, tu vois. T'étais trop sûr de la
victoire. Voilà. T'étais trop sûr. C'est la victoire, c'est au drapeau à damier. Avant.
Voilà. T'as pris un pari. T'as essayé une stratégie. T'étais pas au courant des conditions. C'était un piège. Donc, je dis, ça va être l'heure de fermer l'émission. Enfin, de l'arrêter, de terminer, de clore ce chapitre.
On va clore le chapitre du Canada. On va parler désormais de Valence, du Grand Prix d'Europe.
Ouf.
Hein. Et peut-être des choses que vous ne ferez pas pendant le Grand Prix de Valence, le Grand Prix.
Et que l'on comprendrait.
Oui.
Que vous n'ayez pas envie de regarder le Grand Prix de Valence,
ça se comprend. Hein. Mais pour ça, il y a Bilo.
Alors, là, je vais faire un peu improviser.
Déjà, une première raison, c'est que vous pouvez préparer une question.
Ouais, voilà.
Ta proposition.
Bah non, parce que si vous n'aimez pas la F1, vous n'écoutez pas le SAV de la F1. Ah.
Oui, mais peut-être que tu écoutes le SAV de la F1 et t'as quand même envie de participer. Ça se trouve, les gens qui nous posent des questions sur la paella, c'est des gens qui n'aiment pas la F1. Donc ils disent, à la fin, si je peux gagner un bouquin sur la F1, tiens, je vais quand même le tenter.
Ok, bon, bah, premier truc à faire, vous participez au concours. J'en ai que 3 hein, pour l'instant, donc je vais chercher.
On n'est pas couché, j'ai dit.
Allez, attends, c'est super dur. Attends, ça doit être le 5e.
Non, c'est pas dur.
Alors, vous pouvez prendre l'avion pour aller en Ukraine ou en Pologne, je sais plus, pour regarder le dernier final qui aura le 24 mai. 24 juin, pardon. Donc, vous pourrez prendre cet avion parce que le vol sera durant l'après-midi, je pense.
Et d'ailleurs, Shuji, tu peux nous conseiller l'Ukraine?
Oui.
T'en gardes un bon souvenir.
Oui, je regarde un bon souvenir, mais tu sais, ça fait longtemps, ça a changé. Il y avait moins de putes.
Oui, à l'époque.
Il y avait moins de putes.
À l'époque, c'était soviétique et
non,
tout.
Non. Déjà, ça se construisait déjà beaucoup.
Maintenant, c'est fini.
Ah non, c'est ça le problème, c'est qu'apparemment, ils ont toujours pas fini les trucs.
Donc ensuite, Bilo, deuxième position.
Donc je confirme, c'est à Kiev. Ce sera à Kiev, le dernier cas. Donc ça, c'est en Ukraine. Deuxième chose, vous pouvez également... Alors, ce sera pas l'avion, ce sera l'Eurostar pour aller à Londres, puisque pour être prêt, puisque le lendemain commencera le tournoi de Wimbledon.
Et là, franchement, ça vaut le coup d'y aller. Parce que Wimbledon, c'est le plus beau tournoi du monde, messieurs dames.
Oui, pas comme certains journalistes qui disent à Roland Garros, c'est le plus beau tournoi du monde, le plus prestigieux du monde. Oui, bien sûr, plus prestigieux.
En même temps, l'avantage, c'est qu'à Wimbledon, on ne peut pas faire de l'herbe rose.
Oui.
Ou bleu.
Mais ça glisse trop, sinon.
J'ai dit, tu comptes, hein, parce que je mange un Kinder Bueno.
Ouais, mais ça fait trois.
Ah, ça me fait penser à Tsonga, tiens.
Oui, c'est normal.
Joe Wilfried, tu me lâches s'il te plaît, merci, et tu retournes dans ton coin. Allez. Là-bas, je suis dans ton coin. Tu réfléchis aux 4 balles de match que t'as laissé passer, tu retournes dans ton coin. T'auras ton Kinder Bueno peut-être après, mais avant tu réfléchis.
Non, il parle pas comme ça. Alors, ensuite, je regarde ce qu'on peut faire le 24 juin.
Bah, déjà, c'est l'anniversaire de mon père, donc on peut lui souhaiter, lui faire un petit gâteau. Ouais.
Ah bah à ce moment-là, oui, vous pouvez aller voir le père de Dino et lui faire un gâteau.
Bon, allez, on te l'accorde parce qu'on est gentil.
Vous pouvez manger.
C'est tard. Manger à 14h le dimanche.
Non, c'est le dimanche.
C'est dimanche.
C'est dimanche, voilà.
Ouais, mais il y a la F1. Il y a la F1 quand même.
Et justement,
il n'y a pas la F1, justement. Puisque c'est
oui, mais quand même. Les gens qui n'aiment pas la F1, ils mangent avec des gens qui aiment la F1, donc ils regardent le Grand Prix. Donc moi, je suis pas sûr d'accepter ça, Shinji.
Ouais, mais le repas peut être assez long et puis la télé peut être allumée devant.
Oui, mais c'est désagréable d'avoir les bruits de F1 derrière. Enfin, non, c'est désagréable.
On n'a pas dit que c'était de bon goût, mais c'est possible.
Oui, voilà. Bon, admettons-le alors.
Voilà, parce qu'après, elle ferait une fête le samedi soir.
Ça nous en fait 5, ça, Shinji, c'est ça ? Plus que 2, Bilo.
Alors, j'avais pensé au tout début de saison, je me suis dit, ouais, je vais aller aux toilettes, mais en même temps, on peut pas passer une heure et demie aux toilettes, quand même, à moins d'avoir des petits soucis.
À moins d'avoir soit des petits soucis, soit un bon bouquin.
Et en plus, des fois, ça tombe bien parce que comme c'est un week-end où le Grand Prix est à chier, tu peux très bien aimer la F1 et quand même aller aux chiottes.
Mmh. Tu restes dans la thème, dans le thème, c'est ça.
Voilà.
Enfin, lors du Grand Prix d'Europe, on sera le 24 juin. Le 24 juin, c'est avant le 30 juin. Donc, vous pourrez encore casser les codes grâce à votre rasoir.
Je sais pas si on peut, c'est-à-dire qu'on a une méconnaissance totale dans le domaine de rasage, Stingy. Donc...
Oui.
Là, je sais pas si on peut la valider ou est-ce qu'on la valide, est-ce qu'on lui fait confiance ou...
Vous avez pas vu la pub?
Non.
Maintenant, tu sais, nous, les pubs sur le rasoir, ça fait peur à nos poils, donc du coup...
Vous avez jamais lu la nouvelle pub de Philips? Putain, je fais tout ça pour ça.
Ah oui, si.
T'as regardé une pub sur un rasoir, t'as
mais écoute, c'est comme quand tu regardes, je sais pas, un film d'horreur, tu vois, ou un film de science-fiction, c'est des trucs pas réalistes.
Tu sais, c'est juste que quand on regarde une pub pour une marque de rasoir, il y a un barbu qui meurt dans le monde. Alors si jamais un jour un ZZ Top il meurt, vous vous direz, tiens, j'ai regardé la pub pour le nouveau Gillette, c'est de ma faute.
Tu vois, il y a un côté film fantastique, tu vois, parce que c'est pas la réalité.
C'est vrai.
Tu vois, c'est comme quand je regarde Le Roi Lion, je sais que c'est pas la réalité.
Bon, donc on le valide.
Oui, on le valide.
Non, bravo Bilo, tu as trouvé 7 trucs à nous faire faire si on n'aime pas la F1.
Ah bon,
espérant que nos auditeurs qui n'aiment pas la Formule 1 apprécieront ce moment et seront profiter pleinement de tes conseils.
J'en ai trouvé 4 et vous m'avez aidé pour les 3 autres. Voilà.
Oui.
Bon, on t'en donne le crédit.
Voilà.
Faut rendre à César ce qui appartient à Dino et Bilo. Et Shinji.
Sinon, pour cette course, donc, Grand Prix d'Europe, des pronos?
Fernando Alonso. Faut bien qu'il y arrive un jour chez lui à Valence.
Moi, une Lotus.
Laquelle?
Les deux, ça me plairait.
Ouais. Ce que j'aime bien, c'est quand Shinji dit « Moi, une Lotus », ça veut dire Grosjean. Sinon, il aurait dit Raikkonen. Mais là, il dit « Moi, une Lotus ». Donc, du coup, c'est Grosjean.
Non, ça veut dire « Je voudrais Raikkonen, mais si c'est Grosjean, je serais content quand même ».
Ouais, c'est ça, Shinji. Ouais.
J'allais dire Raikkonen quand même. Donc, je vais dire Raikkonen. Parce que voilà, il fera chaud.
On arrive à la fin de l'émission, messieurs. Merci Bilo de nous avoir accompagnés.
Merci à vous de m'avoir accepté. Je suis passé encore une fois une bonne soirée. Et comme dit Lafitte, je suis très excité.
Est-ce que t'as les genoux qui te font mal?
Non, ça va.
Ah. Non, donc il fera beau la semaine prochaine.
Ouais, cool.
D'ailleurs, profitons-en hein, pour vous rappeler. Bon, il y a déjà du monde pour Valence. Mais par contre, pour les grands prix suivants, si vous voulez participer, hein, c'est contact@savf1.fr. Et vous avez vu, on accepte vraiment n'importe qui. Hein, oh. On accepte des Fab, on accepte des Belges, on accepte Bilo, on accepte des Kevin dans le passé.
D'ailleurs, si vous êtes extraterrestre ou animal, hein, nous n'avons pas encore eu. Oui.
Et si vous venez du Québec, sincèrement, ça m'intrigue. Si vous venez du Québec, il se trouve que je commence un peu à parler le québécois. si vous venez du Québec, vous êtes les bienvenus. On s'arrangera niveau horaire, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi pouvoir voyager. Donc, amis québécois, amis suisses, amis luxembourgeois, et même amis francophones de tout pays, venez quoi, venez dans le SAV, parce que le SAV est international.
Les Québécois, hein, la province du Québec, et non pas de l'Ontario. Voilà.
Oui, j'ai jamais confondu les deux, j'ai juste pensé qu'il y avait l'Ontario dans le Québec, c'est pas pareil.
Quand même.
T'as un peu confondu quand même.
Je tiens, Shinji, à te rappeler que mon erreur nous a rapporté 2 points. D'accord.
C'est vrai.
Et profitez-en aussi pour vous donner l'adresse du répondeur du SAV. Si vous avez des questions sur la F1, soit pour expliquer, soit pour ouvrir des débats, etc., pour nous poser des questions sur nous, notre passion et compagnie, n'hésitez pas, c'est répondeur@savf1.fr.
Si vous nous écoutez par iTunes, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir.
Parce que Shinji, le SAV de la F1, c'est... Ah non plus, t'es pas prêt. C'est le Ritz des podcasts.
Ah, mais attends, moi, mon truc, ça fait plus d'un an que je le fais.
Ah, oui, mais voilà, faudra que tu t'habitues un petit peu, j'ai dit.
Parce que la F1 sur Internet, c'est sûr.
Fan F1.
Voilà. Ah, il y en a toujours un droit. J'y arriverai, c'est la fin de saison. Et bien sûr, comme d'habitude, nous quittons sur ces quelques mots de poésie que vous remarquez ces dernières semaines, on comprend. C'est pas comme l'année dernière, on comprenait que dalle et tout. Non, là, c'est bien, il fait des efforts et tout. Quand il oublie pas, c'est bien.
Mais bref, c'est que du coup, c'est comme je m'en rappelle pas, même maintenant, je m'en rappelle plus. Enfin, là, celui de ce soir, je l'ai fait 30 secondes avant l'émission. Donc, du coup, j'ai été chercher quelque chose de simple. Et en plus, c'est un vrai proverbe. Et c'est un proverbe canadien. Donc, comme il est écrit en français, c'est un proverbe québécois, puisqu'il est en français. Et c'est un proverbe québécois qui va concerner un pilote québécois, mais je ne vous dirai pas lequel, pour entretenir un peu de mystère, parce qu'ils ont été très nombreux en Formule 1. Et ce proverbe québécois que certains anciens pilotes québécois, notamment champions du monde, devraient parfois se rappeler, est le suivant. Qui a un toit de verre ne tire pas de pierre chez son voisin.